Messieurs, dames, je vous demande de baisser les yeux et de fermer vos gueules. J'ai de gros problèmes relationnels et un flingue, alors. Si vous avez envie de vivre, ne nous regardez pas.
Papa.
Oui, ma chérie.
Je t'emmerde.
Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement, tu resteras une connasse.
Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, d'héroïne.
Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
Salut tout le monde, welcome to Nanarland, le podcast où nous décortiquons le meilleur du pire du cinéma d'une manière totalement auditive. Aujourd'hui, on vous parlera de science-fiction, thème large s'il en est, car le genre lui recouvre plusieurs styles, anticipation, space opéra, monstres de l'espace, etc. La science-fiction est si vaste que l'équipe géniale composée de Mathilde, Julien, Pascalou et Richard autour de moi, Fabien, ne sera pas de trop pour vous proposer un panachage de ce qu'il y a de plus mauvais au cinéma, mais aussi de plus sympathique.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Salut, Nanarland du futur.
Bonsoir tout le monde. Alors,
et bonsoir.
Et bonsoir, Cobal. Comment vous allez ?
On tous.
On tous un petit peu, oui, on est un petit peu mal, c'est vrai. Donc désolé si à certaines toux, on est encore un peu, entre guillemets, à la sortie de l'hiver. Vous allez bien ?
Bah écoute, ça va bien, oui. On attend le printemps comme le reste de la France, je suppose.
Je sais que Pascal ou tous.
Et on attend les JO.
Ah, voilà. Je sais que Pascal ou tous, moi je tous. Est-ce que Mathilde, Julien et Richard vous poussez aussi un peu ?
Moi, je suis livré avec la toux de base, donc.
Moi, je renifle plutôt. Je tousse peu, mais je renifle.
On compte sur toi pour ponctuer nos toux avec un peu de reniflement, histoire de
exactement.
Parier un peu.
Tout à fait. On va faire un espèce de
plaisir auditif.
Une espèce de chorus.
C'est un peu comme les chants corses. C'est comme les chants corses. Il y a plusieurs voix qui se superposent pour arriver à une harmonie parfaite.
Bon, alors je rappelle qu'aujourd'hui le thème c'est science fiction. Des fictions de science, j'ai envie de dire en bon français. On avait établi un ordre de passage et j'avais d'une manière totalement arbitraire désigné Julien pour parler du film, enfin de son film en fait. Sachant qu'on ne sait pas trop de quel film vous allez parler les uns les autres. On connaît plus ou moins le film de Cobal, on ne va pas le dire maintenant, mais Julien, on ne sait pas de quel film tu vas parler. Dis-nous tout.
Eh bien, je vais vous parler de Highlander.
Oh putain.
Et là, j'entends votre question implicite.
Oui.
Lequel ?
Ah bah oui.
Lequel ?
Parce qu'on parle d'un nanar dans la série. On parle d'un nanar dans la série Highlander. On n'a pas le choix, on a que l'embarras.
Est-ce qu'il y a Christophe Lambert dedans ?
Non.
Ah.
Alors, gros indice quand même, parce que maintenant...
C'est un indice.
Mais ça c'était la meilleure question à poser.
Tu sais, c'est comme dans Qui est-ce, en fait. Est-ce qu'il a une moustache ? Est-ce que ton film Highlander a une moustache ?
Est-ce qu'il a une épée ?
Oui, ah merde.
Est-ce qu'il y a Christophe Lambert plus à quoi.
Est-ce que c'est un héros de série télé?
Oui.
Non, mais on sait qu'il n'y a pas Christophe Lambert, donc on sait tous ce qu'elle sait, de fait.
Non, il y en a plusieurs sans Christophe Lambert.
Ah non, il y en a deux.
Non, il y en a...
Il n'y en a qu'un seul.
Il n'y a qu'un seul film,
sans
mais
Christophe.
Ça dépend si on inclut, par exemple, la série Highlander, si on inclut le dessin animé Highlander, inclut le spin-off de Highlander, L'Immortel...
Non, mais moi je parle des films, les gars.
Il n'y a pas Christophe... Ah ben oui, mais attends, ouais, tu sais, ici à Nanarland, les films, il n'y en a plus, hein.
Ouais, on est obligé d'aller...
Après, on a fait quoi, 80 numéros de podcast, on est en train de racler les fonds de tiroir, messieurs.
C'est vrai.
Bon, heureusement qu'il reste Highlander.
On est toujours là, toujours debout.
Qui se rappelle de L'Immortel, le spin-off de Highlander ?
Moi, monsieur.
Non, c'est une blague, personne s'en rappelle.
Je crois qu'il n'y a que nous, hein. Malheureusement.
Bon, revenons à nos moutons.
Moi, je connais L'Immortel, mais je crois que ce n'est pas le spin-off de Highlander, c'est le rip-off d'Highlander.
Ah non, ça, c'est L'Invincible, monsieur.
Ah, c'est L'Invincible ?
Ouais, c'est The Immortal en anglais, L'Invincible en français. Moi, je parle de L'Immortel au féminin.
Ça se complique.
Qui est un spin-off de la série télé avec un personnage féminin de la série qui avait eu son... Bah, qui a eu droit
son spin-off. Hein. Tout à fait.
Bref, on se perd dans les Highlanders. Ils sont beaucoup trop nombreux. Recentrons-nous, donc.
En sachant qu'il y a un projet de remake.
Il ne doit en rester qu'un.
Il y a un projet de remake.
Donc, s'agit-il du premier Highlander ? Non. Je pense qu'on... Pour moi, c'est pas un nanar. Je pense que c'est un avis assez largement partagé.
Oui.
S'agit-il du deuxième ? Ça pourrait.
Ça aurait pu.
parce que c'est un nanar quand même quasiment mythologique. Et qui est totalement SF, puisque le truc, c'est d'avoir le...
Zeist.
Oui, la planète Zeist, les extraterrestres, le dôme au-dessus de la Terre, enfin la totale. Eh ben non. Est-ce qu'il s'agit du troisième ? Alors, là aussi, ça pourrait, parce qu'il y a quand même des effets spéciaux bien ratés dans ce troisième, avec Mario Van Peebles.
Le troisième, et c'est pas terrible du tout.
C'est pas terrible, hein. En fait, le troisième, en plus, c'est un peu con, parce que c'est une suite du premier qui annule la fin du premier.
Exactement.
Puisqu'on nous explique que, finalement, non, Christophe Lambert n'est pas du tout le dernier immortel. Et donc, à quoi ça a servi, tout ça ? Du coup, est-ce que ça pourrait être le quatrième ? Moins connu. Highlander Endgame. En fait, ce qui est en fait un film qui est... Alors, qui est pas vraiment... Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il est sorti au cinéma. En fait, c'est une conclusion... C'est plus un genre de téléfilm conclusion de la série télé. Mm-hmm. Donc, c'est Duncan MacLeod, le héros de la série télé, qui est là, et qui retrouve Connor MacLeod, et il y a une histoire d'immortel qui se retire du jeu, en fait. J'ai plus tout en tête, mais de toute façon, c'est pas celui-là, que je vais parler. S'agit-il donc du dessin animé ? Ben non, tout le monde l'a oublié, même moi. Non, je vais vous parler de Highlander 5... Le gardien de, la, de l'immortalité. The Source, en anglais. Alors lui, c'est le moins connu. C'est un film de Brett Leonard, sorti en 2007. Et en fait, souvent, quand vous dites aux gens qu'il y a un cinquième film Highlander, ils vous disent « mais il n'y en a pas eu que deux ». Et non, il y en a bien cinq. Donc, c'est un film qui est un peu étrange dans son pitch, puisque, comme je le disais, en fait, le quatrième film est la conclusion de la série télé. Et celui-là sort plusieurs années après. En fait, à l'époque, apparemment, il y avait un projet lancé par, surtout porté par Adrian Paul, la star de la série, de relancer une espèce de franchise ou de trilogie Highlander, de ramener Highlander au cinéma, et de relancer un peu l'intérêt pour cette série-là. Mais ce qu'on va voir, donc, c'est que, en fait, si vous voulez, c'est un film, mais le budget, je suis même pas sûr que ça soit celui d'un épisode de la série Highlander. Qui l'a vu ici, Highlander 5 ?
Oui.
Malheureusement, oui, mais ça fait très
longtemps. Je l'ai vu il y a longtemps, mais j'en ai un souvenir magique.
Alors, je me souviens du nom du méchant, on en parlera, mais de Christian Solimano.
Ouais, c'est le méchant qu'on retient. Christian
Solimano. Le nom de l'acteur.
Le méchant est magnifique.
Solimano.
Je ne sais plus, mais enfin oui, c'est dans mes notes quelque part.
Un dieu.
On va essayer de se... Je vais essayer de... J'arrête pas de faire des digressions. Je reviens. Le pitch. Donc, de quoi ça parle, Highlander 5 ? Eh bien, Highlander 5, ça vous parle d'un monde qui part à volo. Émeute dans les rues, chaos, anarchie, gilets jaunes. Duncan MacLeod et une poignée de ses amis immortels font ce qu'ils peuvent pour protéger les innocents en utilisant leur fortune et leur pouvoir d'immortels. Parce que les immortels ont des pouvoirs dans celui-là, s'ils n'avaient pas dans les précédents, mais ok, si tu veux. C'est un film de SF puisqu'on est dans un futur proche, en fait. À un moment, on va croiser, on en reparlera, des barbares du futur cannibale, donc on est quand même dans la SF, mais une SF à futur proche, plus dans l'anticipation, on dirait. Et donc, face à ce chaos... un espoir naît lorsque Duncan et ses amis immortels apprennent qu'on va bientôt avoir un alignement stellaire particulièrement improbable, puisque ce sont tous les objets de la galaxie, la Voie lactée, qui vont être alignés.
Carrément.
Alors là, il y a des gens qui connaissent un peu l'astronomie ici.
L'astronomie ou possible. L'astrologie
L'astronomie. c'est juste ridicule au possible, je veux dire, dans son impossibilité totale. Alors, en fait, ce qu'on va voir dans le film, c'est plutôt un alignement du système solaire, de toutes les planètes, ce qui même là est... Non, ça n'arrive pas, non. Donc, cet alignement crée une occasion pour que nos amis partent à la recherche d'un... ils sont sur la piste d'un lieu mystique, la source, qui serait l'endroit, une espèce de... Enfin, comme son nom l'indique, en fait, la source du pouvoir des immortels, l'espèce de puissance mystique qui leur donne leur immortalité, donc qui est quelque chose... L'origine des immortels est toujours nimbée d'un mystère complexe, que ce soit dans le film ou dans la série, c'est jamais expliqué. Et donc là, dans ce film, l'idée, c'est qu'ils vont aller retrouver cette espèce de source du pouvoir des immortels. Donc, les voilà partis. Alors, je parle peu des personnages parce qu'en fait, à part Duncan MacLeod, je vais vous confesser un truc. Moi, la série Ted Highlander, j'ai dû en voir quelques... j'en ai vu quelques épisodes de temps en temps. Donc, Duncan MacLeod, je vois qui c'est Adrian Paul, un espèce de beau brun ténébreux. Ou en tout cas, lui, il doit penser très fort qu'il est un beau brun ténébreux.
Avec un catogan.
Honnêtement, les autres personnages, je sais pas qui c'est. Donc, je suis.
C'est un beau brun ténébreux. C'est un beau
avec
brun
un catogan, il a quand même le catogan, quoi. C'est quand même assez ouf. Hein.
C'est un beau brun ténébreux avec un catogan, c'est vrai.
C'est le Eros Ramazzotti de l'époque, un peu. Cheveux longs, pardon, je m'égare, excusez-moi.
Ou le Eros Ramazzotti, ou le... comment il s'appelle à Cobalt, on connaît que lui.
Lorenzo Lamas, que tu es Eros Ramazzotti, oui. Excusez-moi.
Ouais, c'est Lorenzo Ramas, quand même.
Voilà, c'est bon, Rico, t'as mérité ta place Lorenzo, ce soir, c'est bon. T'as fait ta
Lorenzo
peu
à la...
merci, chef.
Non, mais on peut toutes les faire. T'as Lorenzo Alamas, Lorenzo Ramas, le terroriste. Enfin, on peut tous les faire. Hein,
Alors, celle-là...
Bravo, Julien.
Faudra la couper au montage, celle-là, je pense. Bref.
Ou pas. Ou pas, les gens le verront, l'entendront.
Mais la menace surgit dans l'ombre parce qu'au moment même où nos immortels se mettent en recherche de la source, apparaît le gardien de la source.
Ah.
C'est notre meilleur ami. Je pense que autour de cette table, le gardien de la source n'a que des fans.
Oui.
Quand on dit que c'est un dieu, c'est un dieu.
Il y met du cœur.
Ah oui, non, c'est un... Il y a... comment ? Au panthéon des acteurs qui jouent n'importe comment... sur Nanarland, on en a quelques-uns. Lui, il est très haut. C'est une mascotte. C'est un... Alors d'abord, décrivons-le un peu. Quel look il a. Imaginez si Lord Humongous de Mad Max 2 décidait « Je vais devenir le Joker ».
Ah, c'est comme ça que tu le vois.
Oui, tu le vois comment, toi?
Moi, je le voyais comme un espèce de Undertaker, tu sais, ce gros catcheur un peu... Là, Undertaker, là, un peu Undertaker du pauvre, tu sais, un peu boutonneux, un peu... Boutonneux, ça n'existe pas. Hein. Boudiné, pardon.
Non, il n'est pas boutonneux, il est plutôt albino.
Non, je veux dire boudiné. Mais,
un boudiné.
Ouais. Et très très sale, tu sais. On dirait vraiment un acteur de catch un peu sur le retour, tu sais, un peu... Et puis, vu qu'il fait très aussi cranquignolesque, ça fait un petit peu, je trouve, acteur de catch raté. Mais ta définition me convient tout à l'heure. Après, je ne me souviens plus vraiment du film, hein. Ça fait très très longtemps. Mais je trouve que ça convient bien aussi ce que tu dis, Julien.
Je remarque que personne ne signale quand même son accessoire, son casque en cuir, qui est quand même...
Oui.
Voilà, il a une espèce de casque en cuir moulant sur la tête, qui est absolument, absolument atroce.
Oui, il est tout en cuir, on dirait un peu une figurine He-Man, qui un peu oubliée, tu sais, l'ennemi de He-Man que personne n'a...
Oui, que personne ne voulait.
Ouais.
Alors, le truc, c'est qu'il est... Enfin, c'est quelqu'un d'assez athlétique, mais il n'est pas non plus super baraque. On peut le voir plutôt peut-être comme Ken de Barbie, qui aurait pris vie un peu.
Oui, t'enlèves tout le bordel, c'est un peu... Il a une petite touche Javier Bardem, enfin... C'est le latin normal, il est anglais de base. Mais
avec le... Les souvenirs sont vieux, mais il n'a pas un petit côté Harkonnen
Le fait de Rota du Dune de Villeneuve, c'est totalement lui. Hein.
Ah, c'est le fait de rater, en fait.
Moi, je proposais fait de Rotten.
Moi, je propose fait de Breton.
Voilà, si quelqu'un n'a jamais vu le film et essaye de s'imaginer la gueule du mec, je pense qu'il n'y arrive pas du tout avec tout ce qu'on vient de dire, en fait. Je pense que c'est impossible.
Pas non plus. Écoutez, le mieux, c'est quand vous allez sur la chronique sur le site, il y a sa tête, il y a des photos. Donc
je pense qu'il n'y a personne qui se l'imagine de la même façon. Et c'est très très compliqué. On serait très dur en portrait robot, je pense.
Non, en fait, l'autre façon de décrire, c'est que c'est un mec qui a un teint très très pâle, je vous dis. Enfin, en tout cas, le personnage semble être albino. Il est... couvert d'une espèce d'armure de cuir, mais en fait armure dans le sens qu'en gros il a un futal, une épaulette et un casque moulant de cuir, et un truc très bizarre au début du film qui est incompréhensible, il a la tête prise dans une espèce de cornet de chien.
C'est totalement ça.
Oui, c'est vrai.
Il sort du veto, le pauvre.
Putain, j'avais oublié.
Oui, il a un cornet de chien.
Et tout.
Ouais, ouais, non mais je ne cherche pas à expliquer. J'ai pas d'explication et le film n'en a pas
alors...
vu. Je décris.
Il y a un truc, c'est qu'a priori, ça l'empêche d'être décapité. Sauf qu'il l'enlève.
Ah oui,
oui, il l'enlève tout de suite. Oui, c'est vrai. Enfin,
c'est utile.
C'est vrai qu'il l'enlève tout de suite. C'est à la fois très court et très intelligent, finalement. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il est tellement marquant, son personnage? C'est pas tellement son look, c'est la façon dont il joue, puisqu'il s'appelle donc Christian Solimeno, et il est déchaîné, mais réellement déchaîné. Le mec, il n'y a pas une scène, il n'y a pas une réplique où il est pas, où il pousse pas les potards à douze du cabotinage. Il se fout de la gueule, mais on dirait qu'il se fout ouvertement de la gueule des autres personnages et même des autres acteurs. C'est-à-dire qu'à un moment, donc, vous avez Adrian Paul, le beau brun ténébreux de la foire fouille. L'autre lui dit, donc le gardien, la sticote un peu, lui faisait leur première rencontre, il fait « Et toi alors, comment tu t'appelles ?» Et l'autre répond « I'm Duncan MacLeod ». Vous voyez, en prenant une espèce de voix sombre de beau brun ténébreux. Et l'autre commence à se foutre de sa gueule. « Oh, I'm Duncan MacLeod, I'm Duncan MacLeod, I'm Duncan MacLeod !»
Oh, tu le fais très bien, bravo.
Ah oui.
Bravo.
Mais ouais, c'est extrêmement marquant, et c'est pas la seule fois où il va se foutre de la gueule des autres personnages, mais même au-delà de ça, des acteurs et de leur façon de jouer. Et vous êtes le spectateur, et vous regardez ça, et vous dites, mais... Enfin, je veux dire, il est là pour saboter le film, ce mec, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Pourquoi ils l'ont pas viré? Enfin...
C'est pour ça que je trouvais qu'il avait un côté catcheur aussi, tu sais, c'est un côté un peu show-off.
Ah, mais le mec, il vole la vedette à tout le monde. Bon, vous me direz, vu les vedettes, c'est pour... Ok, c'est...
J'imagine que tu as parlé du moment où il se moque même du film et de l'univers du film.
Alors je sais. Alors moi j'avais l'autre truc, c'est où il
commence.
Quand il se met à
chanter.
Ouais.
La chanson du film.
Oui.
Dans le film.
À un moment il se met à chanter. Who wants to live forever? Et en fait c'est la chanson de Queen de Highlander.
Ah
quoi.
Oui, du premier Highlander.
Et il commence. Enfin...
Highlander en faisant de la tyrolienne en plus, je crois. C'est le moment où j'étais par terre en train de me tenir le ventre en rigolant. Tellement c'était improbable de voir effectivement
c'est
un personnage à l'intérieur du film en train de dynamiter le film, mais que ça avait l'air d'être volontaire de faire ça. C'était fantastique.
Mais ouais, parce que tu te dis, c'est pas genre. Enfin, comment. Le réalisateur, ça n'a pas pu lui échapper quand même, ce qui était en train de se passer. Et donc, je vous la fais courte, mais donc, c'est une espèce de quête où Duncan et ses amis vont aller chercher des indices qui vont les amener à trouver la source. Alors, où est ce lieu mystique et mystérieux que même Lara Croft n'a jamais trouvé? C'est une espèce de clairière au fond d'une forêt de chip. Il n'y a pas de budget. Ça, c'est vraiment le truc sur le film, c'est que vous sentez que ça a été fait peut-être avec beaucoup de bonne volonté, mais vraiment avec pas assez de thunes. Et c'est dommage pour le film. Bon, c'est tant mieux pour nous, mais c'est dommage pour le film. Et il y a notamment, effectivement, la scène dans la forêt où ils sont poursuivis par les barbares du futur cannibale, dont je parlais tout à l'heure. Et pendant qu'ils courent dans la forêt, vous avez le gardien qui passe derrière eux comme sur une tyrolienne. En fait, on voit que ses jambes au fond de l'écran qui défilent de droite à gauche, en train de hurler, de dire « Who wants to live forever ?», d'éclater de rire, de faire un truc. Et les autres qui courent comme s'ils étaient terrifiés par cette espèce de clown en train de faire de l'acrobranche derrière eux, quoi. Et vous, le spectateur, vous regardez ça et vous vous dites « Mais c'est génial, mais comme, enfin, Cobalt, j'étais comme toi, j'étais mort de rire devant ce truc. »
Le caractère fauché se ressent dès le début, parce que si toi t'as pas trop suivi la série au niveau des personnages, moi à l'époque, sans être un fan absolu, j'avais quand même regardé un peu. Et dans le gang de Duncan MacLeod, il y a un personnage quand même qui s'appelle Métos, qui est un immortel hyper ancien. Il a 13 000 ans. Il date d'il y a longtemps. Le mec, tu vois, il pèse. Il s'est plutôt planqué pour pas trop se faire emmerder par les autres, mais il maîtrise beaucoup, beaucoup de domaines. Et donc, en termes martial, tu vois, t'es sur le summum du summum du summum. Et dans ce film, Métos, il se fait péter la tête par des clochards du futur. À un moment donné, ils se font braquer dans une zone désertique, désaffectée, enfin...
Sur les docks de Marseille.
Tu vois des personnages qui sont quand même quasi mythologiques se faire défoncer la tête par des pleupleux. C'est-à-dire que même la série en prend un coup dans la gueule, tu vois. Même la mythologie de la série se fait souiller par le film.
J'admire votre... c'est un peu ça qu'on reconnaît les vrais nerds de Highlander. C'est ceux qui disent... Oui, c'est dommage pour le film, il aurait pu être sauvé. Ah, la série, vraiment, vous êtes durs avec. Les gars, il n'y a rien à sauver, c'est Highlander. Ça s'est terminé au générique du premier film.
C'est vrai que c'est l'indulgence du Highlander un peu, quoi.
Mais c'est...
Ou c'est une enfance sur, devant M6 un peu trop longtemps.
Mais c'est vraiment plus ça. Que pour une, enfin pour une franchise, si je peux employer des termes modernes, qui s'est construit sur des combats à l'épée à la base. C'est un film qui a littéralement, je crois, dans tout le film, deux combats, deux scènes de combat. Donc la scène finale dont on va reparler de façon extensive est effectivement une scène où t'as des espèces de loubards du futur sur des docks abandonnés qui y a un mec random qu'ils enferment dans des pneus avant d'y foutre le feu. Et il y a Duncan et ses copains qui vont leur péter la gueule, quoi. Mais même Duncan MacLeod, qui est quand même... Enfin, vous voyez, on est après la fin de la série, donc c'est censé être, comme tu disais, quelqu'un qui pèse, quoi. Enfin, un espèce d'artiste martial, un mec quasiment invincible à l'épée. Ben, il galère, quoi. Et c'est vrai que... Enfin... Bon, c'est pas le pire du film, mais il y a quand même un problème sur le fait, comme tu dis, que c'est des personnages mythiques qui se font limite bolosser par des méchants ou des ennemis qui sont juste pas à leur niveau, quoi.
C'est des désiconises complètement, alors que c'était le but de réiconiser un peu la série après des successions de films tous plus miteux que les uns que les autres. Donc c'est vraiment un échec total au vu des intentions.
C'est quelque chose qui rajoute à la pauvreté générale du truc, c'est que c'est tourné en Europe de l'Est et ça se voit. C'est vraiment ces tournages des années 2000, alors je sais plus dans quel bled d'Europe de l'Est c'est tourné, mais ça pue la misère à tous les niveaux, parce que l'extérieur, en fait, ça fait vraiment ces villes grises d'Europe de l'Est qui sont pas mises en valeur, qui sont d'une tristesse infinie. Et je pense que le film, en fait, il a été vraiment tourné à l'économie, hein, dans mon souvenir. Ça fait une dizaine d'années que je l'ai vu, mais il est vraiment, vraiment minable sur tous les aspects du jeu.
Alors, les décors sont... Enfin... On voit la pauvreté dans les décors, c'est-à-dire que c'est pas un film où vous allez avoir spécialement forcément des costumes, même les effets spéciaux, on va en reparler, bon, ils sont super nuls, mais vous avez pas forcément besoin de 10 000 effets spéciaux dans un film Highlander, vous faites 3 quickening, c'est bon, mais par contre dans les décors on voit vraiment que c'est... Amenons-nous quand même à la scène la plus intéressante, la plus drôle, une scène extraordinaire, qui est le combat final du gardien contre Duncan MacLeod. Donc... En fait, on a appris que le gardien avait kidnappé la copine de Duncan MacLeod pour des raisons qui sont... Rien n'est très clair dans ce film, en fait. C'est assez mal expliqué. Je pense que, honnêtement, ils ont tiré du montage ce qu'ils ont pu, mais qu'il leur manque des bouts de scène et que l'histoire, elle a beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal à tenir sur ses deux jambes. Donc, ils se retrouvent dans une espèce de clairière au fin fond d'une forêt d'Europe de l'Est. Et là, vous avez d'abord un premier phénomène, c'est que vous avez un alignement des planètes. Et c'est des effets spéciaux de 2007 d'un film, encore une fois, qui a un gros problème de budget. Donc, bon, le médium du podcast n'est pas très adapté pour vous décrire ça, mais c'est moche. Voilà, c'est moche. Et ensuite arrive la chorégraphie du combat de Duncan contre le gardien. Et là, tu pleures de rire. C'est le truc le plus pété que j'ai jamais vu. Les mecs, alors ils commencent un peu normal. Après, ils veulent faire genre, c'est des immortels, ils sont plus forts que les autres hommes. Donc, il y a des espèces d'effets où de persistance de l'image pour faire croire qu'ils vont super vite, qu'ils tapent super fort. Et ça arrive au point où vous avez Duncan MacLeod qui à ce moment-là n'a perdu son katana mais a une paire de couteaux de cuisine qui mouline des bras et il fait une tornade. Une tornade de poussière.
Oui, c'est vrai.
Et il est tellement fort des bras qu'il lui balance la tornade sur le gardien. Mais le gardien, il se laisse pas faire. Lui aussi, il s'est mouliné les bras. Donc il renvoie la tornade. Et ils font du ping-pong avec une putain de tornade. C'est extraordinaire. Tu sais plus ce que tu regardes. Ça se termine quand le... Donc Duncan finit par prendre l'avantage sur le gardien. Le gardien se retrouve à terre sur le dos. Alors à ce moment-là, il commence à glisser sur le dos tout en parant les coups avec son épée. Une espèce de ver de terre avançant en arrière et tout en essayant de faire de l'escrime. Ça marche même pas un quart de seconde. Et tout bascule quand donc, le gardien se retrouve à la merci de Duncan MacLeod qui va se mettre à tourner très vite autour de lui. Et il tourne de plus en plus vite autour de lui. Et donc le gardien se met à tourner aussi. Et donc le gardien tourne sur lui-même, de plus en plus haut. On est dans Bip Bip et Coyote. Il va se transformer en perceuse humaine et s'enfoncer dans le sol. Et c'est, je le répète, le climax du film. Puisque...
C'est fait sérieusement, hein. Non, sincèrement. C'est très sérieux.
Ce combat, quand j'ai voulu en faire un cut pour une nuit nanarlande à l'époque où on a découvert le film... J'arrivais pas à couper. C'est, je crois, 6-7 minutes, mais il n'y a pas de gras, il n'y a rien à enlever. C'est un fou rire du début à la fin. Highlander 5, c'est pas le nanar le plus connu, et c'est vrai qu'il y a des gros, il y a des coups de mou. Dès que le gardien est pas à l'écran, je vous le dis, on s'emmerde. On s'emmerde, no question.
Mais bah, dès qu'il est là... La série, hein. Je suis désolé, mais la série, c'est un peu chiant.
Oui, mais le gardien, il est pas dans la série. Donc... Oui, remarque, oui, oui, donc comme dans la série. Comme dans la série.
Ils auraient dû faire une série juste sur le gardien.
Non, mais en fait, on va se mettre à dos les fans de Highlander. Écoutez, on a déjà beaucoup de gens qui nous veulent du mal. Je sais pas si on fait bien quand même, parce que...
Je sais pas si on a les reins, c'est solide.
Il n'en reste qu'un.
Bravo, putain, ça ferait une belle chute.
Je me sens un peu le représentant de ces gens-là, parce que j'avais quand même beaucoup regardé la série à l'époque.
Est-ce que je peux faire juste une mention complémentaire?
Oui, Mathilde.
Il y a un personnage alors, qui apparaît surtout au début et qui est un peu le méchant du début, qui est un genre d'évêque ou de cardinal, machin, qui est le personnage que tu crées dans Cyberpunk, quand tu n'es pas encore habitué à l'éditeur de personnages. Il a une coiffure, le gars, aérodynamique parfaite.
Elle est extrêmement spéciale, sa coiffure. Je ne saurais pas la décrire, en fait.
Et il joue le méchant de série télé avec un je m'en foutiste total.
En plus, je crois que c'est un gentil dans l'histoire.
Ouais, c'est pas fou.
Mais ouais, en fait, enfin, voilà, c'est un autre personnage. Et il n'y a rien à dire de lui, à part qu'il a une coiffure comme vous n'en avez jamais vu. Même les footballeurs, ils n'ont pas des coiffures comme ça.
Et il y a aussi... Parce que le truc, c'est que le gardien, il a été maudit, et avec son pote aussi... Ils cherchaient tous les deux la source et ils ont été maudits par la source. Et du coup, le gardien est devenu le gardien, c'est déjà dur. Et son pote est devenu un genre de couille géante. De 300 kilos, qui bouge plus.
Non mais oui. Alors si j'ai trouvé pour la coiffure de l'autre, imaginez Draco Malfoy qui se serait coiffé avec de l'amidon.
Oui, c'est ça, carré. Draco Malfoy mal modélisé PlayStation 1.
Ok.
Avec une coupe à la Dragon Ball.
Mais ouais, Highlander 5, donc le gardien de l'immortalité dans la version française, car il y a une VF, hein, il est peu connu aussi bien comme film Highlander que comme Nanar, mais il gagne à être connu parce que vraiment vous allez passer un bon moment, quoi. C'est-à-dire, il y a des coups de mou, faut pas essayer de le cacher, mais vous allez tomber amoureux du gardien, mais comme nous, et c'est un film qui monte en puissance, qui a un final explosif. Franchement. Allez le voir, je pense qu'il se trouve pas trop difficilement sur YouTube ou whatever. Vous pouvez le voir en VF, honnêtement, en VO, c'est pareil, vous perdez rien. Je pense même que la VO est peut-être meilleure sur le gardien, parce que le gardien est tellement génial. Et allez-y, vous allez vraiment passer un bon moment sur celui-là.
De mémoire, Richard, je sais pas si tu pourras confirmer, mais il me semble que dans La Nuit d'Underland, on avait passé l'extrait du gardien en VO, d'ailleurs. En VF.
Oui, parce que je crois que le... Enfin, je regardais justement ce que Julien avait mis dans la chronique d'origine qu'il avait fait, et en fait, le film a mis beaucoup de temps à sortir en France, la VF. Le film est de 2007, et le film est sorti en France en DVD en 2011. Et je crois qu'à l'époque, on n'avait que la VO, et donc, avec une version d'ailleurs, je me rappelle, ripée dégueulasse, qui pixelisait au moment du combat final.
Mais moi, j'ai souviens de l'extrait un peu en pénible. VO, ça c'est sûr.
Ouais.
C'est pour ça.
Ouais, on l'a passé. Ouais, le morceau que nous a fait Julien, ouais, c'est resté assez
mythique. Faudrait du coup de le voir en VF, du coup, parce que je crois que je l'ai pas vu en VF.
Oui, alors il est possible.
Moi, je l'ai vu en VF, le film, et j'en ai un bon souvenir parce que le côté moqueur du gardien est bien retranscrit, même en français. Enfin, ça rendait la folie furieuse du personnage quand même. Donc non, c'était la VF gardait le ton nanar du film.
Et en relisant la chronique et sur le site, et notamment sa cote de rareté, petite anecdote. En fait, le film est d'abord sorti en Russie, parce que dans les années 2000, pourtant, il y avait le piratage était endémique, et la Russie était une grande source de versions pirates de films et de jeux vidéo, notamment.
Oui, tout à fait.
Et donc, à l'époque, il y avait une technique qui avait été tentée par les distributeurs, qui était pour un film qui devait sortir au cinéma, alors là, c'est pas vraiment été le cas, c'est de le sortir en Russie très vite, d'avoir une version légale en Russie très vite, même si vous aviez un film qui était peut-être encore exploité en salle ailleurs, de façon, en fait, à récupérer le marché russe et à pas tout perdre. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça servait surtout à filer aux pirates des versions DVD faciles à craquer sur lesquelles ils pouvaient ensuite recoller différentes langues si besoin. Mais il disait, en fait, à l'époque que c'était une copie de travail en fait. Et que ce qu'on avait vu, donc le truc qui était sorti sur Emule, etc., c'était une copie de travail, et qu'en fait la version finale allait avoir des effets spéciaux qui allaient être finalisés et qui allaient être beaucoup mieux. Et puis le film est sorti dans le DVD officiel, et en fait, non, c'était les mêmes.
D'accord. Non, mais écoute, hein, de toute façon, c'était une certaine époque.
Et quand tu vois 4, des années plus tard,
oui.
On est un peu toujours dans cette logique-là. Hein. Non, non, mais on va refaire les effets spéciaux, attendez.
Ça oui, aujourd'hui, ça s'appelle la méthode Marvel.
Tout à fait.
Et voilà, ça balance, ça dénonce dans le podcast Nanarland.
Ouais, mais les fans de Marvel, il y en a encore moins que des fans d'Highlander.
Il reste plus grand-chose. Écoute, merci Julien. C'était donc Highlander 5, c'est ça, Highlander 5.
Highlander 5, le gardien de l'immortalité,
gardien de l'immortalité
en français, ou The Source en version originale.
Et j'ai un trou de mémoire, ensuite j'avais dit Mathilde ou Cobal, je sais plus.
Cobal.
Et oui, j'avais mis Cobal, alors Cobal c'est à toi.
Ouais, bah, c'est moi.
Et oui, mon petit Cobalou, comme on dit.
C'est à
alors,
moi,
Cobal,
après
Pascalou,
un,
pardon.
Un aussi beau nanar... Parce que Lou, Cobal, comme vous voulez. Après un aussi bon nanar, c'est difficile de passer. Parce que c'est vrai que c'était très bon souvenir d'Highlander 5. Alors moi, je vais vous parler d'un autre film. Un film qui s'appelle Spoiler. Mm-hmm. Je vous laisse faire les blagues maintenant.
Ah, yeah.
Ah ben,
non, celle-là, il est interdit.
Devant ta chronique, on va spoiler.
Ah,
pas mal, pas mal.
Ouais, non, ça fait...
Rico,
non, là, pour l'instant, je voudrais pas... Non, parce que je voudrais pas gâcher ta chronique en révélant les secrets
ah.
de ta chronique avant.
Ah, ok.
Moi, je l'ai fait
bon.
Subtil, moi, je l'ai fait subtil.
C'est fini, voilà. Vous avez eu votre temps, c'est fini.
Ok.
Alors, en fait, c'est marrant parce que c'est comment on arrive à regarder un film spoiler, parce qu'on l'a regardé à plusieurs. En fait, on avait revu Capital Punishment, le premier film de Gary Daniels qui était tourné par David Huet, le futur grand chef de CineXL. C'était les débuts de CineXL. Et puis voilà, très bon nana qu'on vous recommande. Et puis bah, après ce genre de choses, on va traîner un peu sur la fiche IMDB des gens qui ont fait tout ça, de Gary Daniels. Tu cliques au hasard sur les titres que tu connais pas. Et puis soudain, là, paf, j'accepte. Alors ce que je vous propose, c'est de décrire à notre public la jaquette de spoiler. Qui se sent de décrire cette jaquette?
Alors... Excuse-moi, parce que j'ai une autre jaquette qui vient d'apparaître sur un autre de ta part, sur un autre chat. Moi, je veux commencer. Est-ce qu'on peut la résumer? On va faire un jeu peut-être pour donner un peu de piment. On va la résumer en un seul mot. Ça serait compliqué. Mais en un mot, moi, je dirais anatomique.
J'ajouterais
Julien.
Bleu.
Richard.
J'ajouterais dégueulasse.
Amiga.
Oui, Amiga.
Exactement.
Oui.
Je crois que c'est exactement
oui.
le
ça
bon mot.
Ça parlera à notre public.
On désigne effectivement cette jaquette d'une sorte de personnage, effectivement, de jeu vidéo antédiluvien, tout bleu, vraiment...
À poil.
Vraiment très mal modélisé, qui, effectivement, n'est pas habillé, parce que c'est sûrement trop cher
à modéliser.
De modéliser des vêtements. Et qui donc court avec une sorte d'effet de flou bleu dégueulasse sur un fond tout aussi flou, impossible à discerner. Et le titre, spoiler.
Ça fait penser un peu. Le personnage ferait penser un peu au Blue Man's Group.
Oui, bien sûr.
Je sais pas si vous voyez
ce fameux trio.
Mais en fait, refait par un ordinateur d'il y a 20 ans.
La référence.
Ce que j'aime bien, c'est qu'il est légèrement luisant.
La référence est assez obscure, mais ça fait penser au personnage d'un jeu vidéo qui s'appelle Rise of the Robots, qui restait dans les mémoires comme comme un des pires jeux de baston jamais fait,
exactement.
Et qui avait des graphismes faits dans une technologie qu'on appelait à l'époque du Silicon Graphics, et qui avait cette espèce de rendu très plastique.
Et qui était injouable. Enfin,
oui, alors le jeu était injouable, effectivement, mais l'espèce de rendu 3D est très dans cette époque-là, donc de la fin des années 90. Hein.
Et là, j'ai envie de te poser une question, Pascalou. Mais est-ce que cette jaquette a quelque chose à voir avec le film?
La jaquette est celle du film, et nous allons voir d'ailleurs que cette jaquette est totalement respectueuse du film.
Alors là, ayant vu le film, j'attends ton explication
oui, moi aussi,
avec beaucoup d'impatience.
Bien sûr.
Je vous écoute, votre honneur.
Donc, quand on voit ça, ça va venir. Je vais développer mon argumentaire. Quand on voit ça, on veut voir. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc là, on demande au patron, à Doumé, est-ce que tu as le film? Quand il ne l'a pas, eh ben, il va l'acheter aussitôt. Et puis nous
voilà, je précise, Doumé, c'est Dominique hein, sur le Nanarland qui nous fournit une tonne de films dès qu'on a besoin de quelque chose. C'est le patron corse qui nous envoie tous les films dont on a besoin parce qu'il finit toujours par les trouver.
Globalement, quand Netflix n'a pas de film, il demande à Doumé.
Exactement, c'est là où Netflix se sert auprès de Doumé pour avoir un backup de catalogue.
J'aurais plutôt dit Amazon Prime.
Oui.
Pardon, Pascal.
Alors, bon, ben oui, parce que spoiler, de quoi ça parle? Bah, difficile à dire. En tout cas, le film s'ouvre sur le futur de demain. Donc, on est dans la SF, c'est déjà le futur. On a Gary Daniels, à qui tout le monde répète qu'il est Roger Mason, et qui apparemment fuit. Il court, car il est innocent. Il fuit, même les fonds verts, un peu dégueulasses, sur lesquels il y a des gros métros en CG moche qui se précipitent vers lui. Heureusement, bah, ça aide quand t'es pas sur le même plan, t'esquives plus facilement la menace. Mais à peine échappé au métro CGI, le voilà tabassé par des gardiens de la paix, c'est un futur proche, hein, qui se moque de lui alors qu'il hurle à son innocence, à son désir de revoir sa fille Gillian. Alors, on s'en fiche, direction le tribunal où il est condamné à 25 ans de cryogénisation. Bon, peut-être ça vous fait penser à un film, cette histoire de cryogénisation, on y reviendra. Donc le voilà, 25 ans au congélo. Et puis après, on le décongèle, on le réchauffe, on le revitalise avec un petit peu de poche de sang, on insère des images de l'Amplava, parce que c'est le futur du futur maintenant. On est 25 ans dans le futur du futur. Et le temps qui passe se symbolise par le métronome. Le métronome qui rythme et rythme et rythme le film. Alors c'est assez sympa, parce que quand on est réveillé comme ça, on a le droit à un médecin qui vous fait le décompte des nouvelles. En gros, il liste les gens qui sont morts dans votre famille.
C'est vrai.
Et puis il vous dit, votre fille, maintenant, elle a 30 ans. Et puis après, on passe devant un comité un peu qui fait le point. Alors, pour vous mettre dans le ton du futur, hein, et que de l'originalité aussi du film... Je vais vous proposer de passer le premier extrait, qui est un extrait un peu long, mais parce qu'il se découpe en plusieurs informations importantes, qui vont vraiment vous permettre de voir que c'est plus la vie d'aujourd'hui.
Exactement. Alors je préviens simplement les auditeurs, ou je sais pas, et surtout vous trois hein, qui écoutez, en plus de Cobal et moi, que l'extrait en question fait 2 minutes 07. Vous êtes prévenus.
Oui, parce qu'on est généreux dans ce podcast.
Notre mission, donc, consiste à vous aider à vous suivre pas à pas durant...
Est-ce que c'est du tabac?
Je vous demande pardon.
Est-ce que c'est du tabac que vous fumez, là?
Le tabac a été interdit il y a plus de 15 ans, monsieur Masson. Vous ne saviez pas?
Est-ce que je peux continuer? Avez-vous été maltraité durant votre séjour en salle d'hibernation?
Mais j'étais inconscient durant tout ce temps.
Est-ce que l'on vous a torturé durant cette même période?
Ce ne serait pas du hache que vous fumez?
Si, monsieur, c'en est...
Si vous pouviez, je vous prie, cessez de m'interrompre.
Mais je peux en avoir une cigarette pour m'aider à retrouver la mémoire.
En d'autres termes, monsieur Mason, vous n'avez donc pas à vous plaindre de mauvais traitements durant vos 25 années en quartier de haute sécurité.
J'étais inconscient.
Alors, pas de plainte. Et maintenant, monsieur Mason, parlons loisirs. L'administration autorise les détenus à pratiquer un hobby, mais un seul.
J'en avais plusieurs avant d'être incarcéré.
Oui, mais ici, hélas, il faut choisir.
J'ai entendu dire que ça allait bientôt changer.
Auriez-vous parlé de ça, la dernière réunion? Je n'en ai raté qu'une seule, ça devait être celle-là.
Oh. Monsieur Mason, y a-t-il une chose que l'on puisse faire pour vous, au point de vue loisir?
Oui, je collectionne les armes.
Monsieur Mason.
La couture.
Je vous demande pardon.
J'adore la couture. Faire des vêtements, enfin, vous connaissez.
Et qu'est-ce que vous envisagez de confectionner, monsieur Mason?
Des chaussettes.
Une polyester, je suppose.
Vous en voulez une paire?
Ici, votre ami l'ordinateur de la centrale Omega, qui vous souhaite une bonne soirée. Rappelez-vous qu'un monde meilleur est toujours possible. Dieu vous guide sur la voie de la sagesse. Mais toutes les brebis galeuses. seront punis.
Alors effectivement, on parle de hashish, on parle de couture, et de...
Et de notre ami l'ordinateur.
Et notre ami l'ordinateur.
Alors j'aime beaucoup parce qu'effectivement à la fois tout ce délire sur le hashish, parce que le tabac est interdit et que c'est bon pour retrouver la mémoire. J'aime beaucoup parce qu'on voit quand même le doublage qui est légèrement à la ramasse. J'aime beaucoup que le fait que le personnage principal fasse de la couture est une idée très originale et pas du tout évocatrice de Demolition Man dans lequel Stallone, pareil, est reprogrammé pour faire du tricot. Et j'aime beaucoup aussi à la fin l'ordinateur de l'espace Omega et ses injonctions prosélytes sur le respect de la biblique. C'est le futur, mais quand même, il est pas mal moisi comme l'actualité.
Mais c'est vraiment étrange comme film. Juste pour l'avoir vu.
C'est un film, effectivement, étrange.
C'est étrange et nanar. Donc, et nanar et étrange. Enfin, je pense que tu vas en parler, mais c'est vrai que c'est...
Ouais, ça sera sûrement ma conclusion. Et donc voilà. Donc maintenant, Mason, il est décongelé. Mmh. Donc il n'est pas libéré pour autant. Il va quand même en prison. C'est la double peine. Et il découvre un peu qu'il est célèbre parmi les détenus. Alors on a un peu de mal à comprendre pourquoi, parce qu'il a juste tenté d'échapper à la justice. Quoi, mais tout le monde le célèbre comme le roi de l'évasion. Alors le futur, les prisons, on se promène dans des cours avec des petits grillages surmontés de barbelés, on joue de l'harmonica et on fume de la marijuana. C'est vraiment, on voyage, tu vois, on se sent plus chez nous. Sur fond de l'ordinateur là, qui débite ses réflexions bibliques, mais aussi la liste des exécutés du jour. Mason, il est quand même un peu triste, ça se comprend parce que la musique du film est triste. Petite note de piano, il pense à sa fille, oh là là, maintenant elle est grande. Sur la photo, elle n'a plus la même tête que quand elle avait 10 ans. Mais bon, c'est un pro de l'évasion, on l'a dit, donc il va s'évader. Et comment il fait? Il utilise ses talents en couture pour se confectionner une tenue de responsable sécurité incendie. Comme ça, après, il peut se promener dans la prison en faisant style « Hey, j'ai fini mon contrôle, il faut m'ouvrir la porte pour que je m'en aille. » À visage découvert, hein. Tu sais, tranquille. Comment il a quitté sa cellule pour faire ça? Pas besoin de le prévenir, on s'en fout. Et donc, voilà. Réussite, succès, hein, du roi de l'évasion. Qui peut essayer d'aller retrouver sa fille. Alors, l'occasion d'un... Alors, un plan quasi subliminal, hein, de la ville. Donc là, c'est Blade Runner, mais pendant une demi-seconde. Je pense que t'as un cinquième du budget qui est parti dans le plan. Il prend le métro, il se rend directement à l'église pour se confesser et voler la tenue du prêtre. Donc on a le droit à un petit Gary Daniels en prêtre, sur fond de musique, genre tu as débloqué un succès, c'est Alléluia.
Non mais oui.
C'est le journalisme. Et il est aussitôt chopé par les flics à la sortie. Alors les flics qui ont le même look que les matons. Tu vois, c'est un univers où on a, j'imagine, rationalisé un peu les dépenses pour l'administration. Les pénitentiaires et les mecs qui se promènent dans la rue doivent être sous le même ministère, donc les mêmes tenues. Il est chopé par les flics, dénoncé par une nonne qui exulte d'avoir ainsi repéré le mal en bas. Retour au tribunal.
35 ans de célibat et tu vois Gary Daniels, j'exulterai aussi.
C'est vrai.
Elle exulte de le renvoyer en tôle, avec d'autres mecs. Hein. Donc le voilà au tribunal, et alors dans le futur du futur, au tribunal, le juge porte la perruque à l'anglaise, les petites lunettes clipsées sur le nez, il utilise un téléphone à cadran, enfin voilà. Ce film est un voyage sans fin vers des temps à venir. On se rit de son plaidoyer pour son innocence, sa demande de révision de son premier procès, condamné à un retour en cryogénie. On va changer, on met plus le sablier, on fait des petits inserts... Oh pardon, on fait plus le métronome, lapsus, on fait des inserts sabliers. Mais attention, parce que Mason, c'est le roi de l'évasion. Mais alors, il a une technique. Il a une requête à faire au juge. Il veut faire caca.
Oh, oui, putain, j'ai oublié ce passage.
Oui, mais bien sûr. Alors, on l'emmène dans des chiottes insalubres, taguées, enfin, comme vraiment t'en as à chaque coin de toilette publique. Et il y a un vigile qui va le surveiller pendant qu'il fait caca. Mais Mason, il est balèze. Il arrive quand même à blouser le vigile avec une sorte d'holobidule qui va projeter son image sur les toilettes. A priori, l'holobidule en question, il avait dû le cacher dans le fond de son intimité parce que sinon, on ne sait pas comment il l'a eu. Le truc est gros, hein, donc je veux dire, Mason, bravo. Donc il fout ça et apparemment il arrive à s'enfuir par une mini grille d'aération au-dessus des toilettes. C'est vraiment un jaguar ninja hein, parce qu'il ne fait aucun bruit. Il profite que le flic maton se soit retourné 10 secondes pour faire ça. Et ensuite il se promène. Alors, autant la grille d'aération est minuscule, autant on sait que les conduits d'aération dans le futur, hein, ils ont la taille suffisante pour résoudre la crise du logement. Tu sais, tu peux mettre des familles entières ou des villages qui vivent dedans. Comme ça, hop, il retourne dans la salle de jugement, il chope le juge et lui retire ses vêtements et il peut à nouveau se déguiser. Parce qu'en plus d'être du roi de l'évasion, c'est un peu le pro du journalisme total, ambiance, on va pas le reconnaître, hein, le Roger Messel. Alors là, on comprend que c'est rigolo parce que la musique à ce moment-là est rigolote. Ça aide beaucoup la musique pour savoir, mais attendez, mais le film, il est quoi? Il est sérieux ou il est comique là? Bah non, ça a l'air triste en fait. C'est un drame. Alors, une fois évadé, direction le salon de massage. Parce que le film n'avait pas trop d'autres idées pour pouvoir caler un petit plan nichon. Ça manquait. Il va au salon de massage pour pouvoir négocier avec son contact nain fumeur de chicha du futur du futur. Il veut choper des papiers d'identité, des faux papiers d'identité. Alors là, quand même, c'est le moment où le spectateur... Enfin, comprend, mais le film, il sait pas où il habite, là. Enfin, il est dans le futur du futur, où il connaît plus personne, il a quand même des contacts.
Enfin, Pascalou.
La narration, elle n'a pas l'air de...
Non, je ne sais pas me permettre, ça fait déjà très très longtemps qu'on s'est posé plein de questions en regardant le film, en fait. On n'attend pas là, je crois que les questions se posent très très vite, avant que le film est complètement barré. Je pense qu'on n'attend pas là.
Là, moi, tu vois, je suis tolérant, je suis prêt à accepter
non,
tout.
Mais...
Mais là, à ce moment-là, j'ai dit
à
non.
À la scène des chiottes,
j'ai dit
déjà.
Non, tu ne peux pas avoir un contact du futur du futur. Non, mais tu sens que lui-même, il est perdu dans sa propre temporalité, tu vois.
Ouais.
Là, il sait plus où il est. Mais heureusement, on va arrêter de réfléchir, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chasseur de primes cow-boy qui arrive dans le salon de massage. Ça y est, ça va être la bagarre. On est là, il y a Gary Daniel, ça y est, là, il va se lever, ça va être la bagarre. Bah non. Gary Daniel, il se fait tabasser par le mec qui rigole en plus et qui se fout de sa gueule. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais on n'a pas pris Gary Daniels pour la bagarre. On l'a casté pour faire l'acteur. On l'a casté pour faire l'acteur. C'est le mec qui a réussi à sous-jouer Kenshiro dans l'adaptation de Ken le Survivant.
Mais c'est ça, si tu dis si t'as pas besoin de faire de la baston, prenez un bon acteur.
C'est ça. Tout à fait.
Le problème, sûrement, des bons acteurs,
pour
c'est
le même
que
prix,
leur salaire n'est pas le même que Gary Daniels.
Bah, Gary Daniels, tu payes quand même un extra pour le fait qu'il sache lever la jambe. Donc si à la place, tu mets cet extra dans
c'est
le
vrai.
Fait d'avoir quelqu'un qui joue un peu mieux la comédie, tu peux peut-être en tirer quelque chose.
Là, il ne lève pas la jambe, mais à la rigueur, tu profites du fait qu'il sait se jeter tout seul par terre quand son cow-boy chasseur de primes le projette. Tu vois. Et il est gaulé. À cet avantage-là aussi. Donc voilà, déception, il y aura vraiment pas de bagarre avec Gary Daniels. Donc, direction la cryogénisation pour 35 ans de plus.
Ce qu'il faut jamais faire.
Donc là, à son réveil, on est dans le futur du futur du futur. Ce qu'effectivement, il ne faut jamais faire parce que le risque, c'est que les bactéries grignotent le cerveau.
Il faut jamais recongeler son Gary Daniels. La chaîne du froid est rompue.
C'est la chaîne du froid, oui. Bah oui.
Donc là, maintenant, la fille de Gary Daniels qui voulait voir, elle a 72 ans. Et Gary Daniels, on le sort du congélateur et on l'oriente dans la section anti-stress de la prison, parce qu'on a quand même compris que c'était un peu éprouvant pour lui. Bon, je vous passe sur le fait qu'il refuse l'injection d'adrénaline qu'on fait aux gens qu'on réveille pour des raisons peu claires, sûrement pour être un peu libre de l'injection d'un vaccin 5G par Big Pharma. Et ça le fout dans un état de délabrement physique un peu compliqué. Il va se rééduquer tout seul. Et puis, en prison, c'est encore plus une légende qu'avant, parce que c'est le méga roi de l'évasion. Hein. C'était une légende même auprès du type qu'il a croisé 30 ans plus tôt en tôle, qui est toujours là, qui a toujours la même tête. Qui n'a pas vieilli. D'ailleurs, les matons sont toujours les mêmes, et notre ami l'ordinateur n'a pas changé, lui non plus. Parce que le temps qui passe, c'est une vue de l'esprit, tu vois.
Mmh, c'est bon.
C'est d'ailleurs tellement une vue de l'esprit que t'as vu tout ce que j'ai raconté, là. Bah là, on est à 30 minutes de film. Ça fait 30 minutes de film, t'as l'impression que ça fait 2 heures que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? On va où? Pourquoi?
Stop.
Arrêtez les évasions et je me fais choper, je me fais congeler et il faut que j'aille voir ma fille. Donc il reste une heure de film. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer?
Des bagarres, sûrement. Je veux dire, il y a Gary Daniels.
Non, arrête. Fais le deuil des bagarres, c'est fini. Non, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir Mason qui va un peu se prendre pour Balavoine en hurlant qu'il n'est pas un héros dans la cantine, qui fait sa petite rééducation dans la cour de promenade, qui apprend que les matons ont parié sur sa future évasion et ont tous une balle à son nom, parce que c'est vraiment la méga star, quoi. C'est les détenus, le vénère, les matons, le vénère, et puis on les boule. Tu sais, le mec, il a pas fait grand-chose. Hein. C'est Roger Mason, tu vois. Et puis il y a des co-détenus qui vont lui bourrer le mou pour lui dire allez vas-y on veut s'évader, vas-y tu nous aides à nous évader, avec dans le groupe le neveu du plus grand dealer de la planète et un révolutionnaire anarchiste qui travaille à la bibliothèque de la prison et qui a donc accès au plan de la prison, enfin, logique. D'ailleurs on va passer un petit deuxième extrait qui est plus court, mais où le fameux mec qui s'occupe des bouquins en fait donne des livres aux détenus. Et puis il va livrer le plan de la prison à Roger Mason pour qu'il l'étudie. Mais j'adore, c'est comment les mecs qui doublent doivent remplir un peu le vide des détenus qu'on voit jamais mais qu'on entend gueuler tout le temps dans le fond de la prison.
Oui.
Donc je te propose, pour nous mettre dans cette ambiance,
oui,
de passer l'extrait spoiler. Hé,
hey, du con, les bouquins, tu peux te les mettre où je pense?
T'aurais pas des trucs porno?
J'en ai rien à péter de tes bouquins, je sais pas lire.
Un magazine, s'il te plaît. J'ai dit un magazine. File-moi un contrôleur.
J'en ai rien à foutre de tes conneries.
T'as raison, mec. Moi, je m'accroche le cul.
Moi, je préfère les bouquins d'horreur avec des crimes et du sang.
Shakespeare, bordel. File-nous du Shakespeare. Y'a que ça de vrai.
Oui, j'ai laissé un petit bout de l'ordinateur.
Tu vois, normalement, dans la prison, on t'explique qu'il y a le gang des Noirs, le gang des Latinos, le gang des nazis, ce genre de truc. Ici, visiblement, le gang, c'est plus la grande librairie ou le masque et la plume.
Ouais.
Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas tout ça du tout dans le futur, il n'y a pas ce côté clanique. À la rigueur, le seul truc qui réunit beaucoup de personnages, c'est leur homophobie. Alors, j'ai pas mis d'extrait, mais on avait été quand même choqués dans le film à quel point, de manière complètement gratuite et excessive, les personnages injurient un des détenus, qui, donc a priori homosexuel, ou en tout cas, ils le considèrent comme tel. Et vraiment, c'est hallucinant à quel point on insiste là-dessus. Je sais pas trop pourquoi ils ont laissé ça. Mais il y a des moments, il y a des bordées où tout le monde y va, hein, de
oui,
son insulte envers ce pauvre mec.
Oui.
En plus, qui est montré vraiment comme un lâche, une femmelette qui lâche des gros pets dégueux qui puent dès qu'il y a une situation de stress.
J'ai oublié, mais oui, c'est, tout à fait.
C'est la finesse. Oui. La finesse de ces
personnes. Putain, mais oui.
Et donc, surtout, ben oui. Mais dans l'évasion, on arrive surtout à ce moment clé qui, enfin, va vous permettre de comprendre la jaquette. Parce qu'à un moment donné, pour une raison qu'on n'expliquera pas parce que le film ne l'explique pas, il va falloir traverser une sorte de champ magnéto-cryogénique, c'est-à-dire il y a un couloir dans lequel il y a une sorte, voilà, c'est ça, de champ de cryogénie dans lequel il va falloir courir sans respirer, sans ouvrir les yeux. Genre ambiance Fortress 2, Christopher Lambert, pour faire du lien avec Highlander qui nage dans l'espace, parce que sinon bah tu meurs congelé. Et donc Gary Daniel, c'est parti, cours là-dedans. Donc là les effets spéciaux, ça y va à fond, tu fais une image bleutée, oui, qui se déforme, tu jettes des petites paillettes de fausse neige sur Gary Daniel, tu lui fais des petits flashs, tu sais, où il se voit lui-même en train de courir, il voit sa fille à la piscine, il y a Jésus-Christ. Enfin, tu vois, le film a des choses à raconter. Et donc là, quand tu vois ça, tu dis « Ah, mais c'est pour ça, votre jaquette dégueu, là !» C'est ça, c'est Gary Daniels qui court dans le champ de cryogénie.
Mais en plus, je voudrais juste dire un truc. Enfin, tu l'as dit, mais quand tu dis les effets spéciaux, j'ai tiqué, parce que les effets spéciaux, c'est une lumière bleue. C'est une lumière bleue, l'effet spécial.
Alors, il y a un petit effet spécial, parce que malheureusement, le révolutionnaire anarchiste va se tromper. Au lieu de courir tout droit, il va se mettre à tourner sur lui-même avec les autres qui disent « Non, non, pas dans ce sens-là, dans l'autre sens. Oui, tout droit. Non, arrête de tourner, tout droit. » Bon, mais il va pas y arriver et il va y avoir un effet vraiment pas terrible où tu as des lignes de fracture, mais tu as l'impression dessinées à la main sur la pellicule et qui apparaît sur son visage et là, c'est fini. Bon, alors, allez, on va accélérer parce qu'en fait, je vous le dis, le film est interminable.
Hein. Alors qu'on a déjà 42 minutes du film.
C'est ça. Il s'évade. À nouveau, allez, on recycle le plan subliminal de Blade Runner quand il est dans l'espace. Sauf que c'est marrant parce que c'est le futur du futur du futur. Mais quand t'es dans les maisons, ça ressemble à des maisons des années 90. Et encore avec des gens qui avaient des goûts bloqués dans les années 70. Et donc, c'est peut-être le roi de l'évasion, Roger Mason, c'est aussi le roi de la loose, parce que donc, il prend une navette pour s'enfuir, mais il s'endort au volant de la spatio-bagnole. Et apparemment, le machin se conduit mal tout seul et finit par se cracher.
C'est une Tesla.
Tesla promet qu'à la prochaine mise à jour, la conduite autonome sera améliorée.
On a les mêmes blagues. Donc,
c'est vrai. Vous avez la même blague.
Et on ne s'est pas entendu
avec
avant.
Un petit temps de décalage, un peu comme dans le film en fait. Il y a une espèce de faille spatio-temporelle entre vos vannes.
Donc là, évidemment, qu'est-ce qui se passe quand il se crache? Bah, il va en garde à vue. Dans une cellule, mais, ouais. Mais vraiment. C'est
80. Quand tu racontes, c'est aussi alors, pénible que le
qu'est-ce
film.
Qu'il
en
va
fait,
faire
cette espèce de boucle.
Qu'est-ce qu'il va faire de la garde à vue?
La gave, ça
qu'est-ce
nous gave.
Qu'est-ce qu'il va faire de la garde à vue, à votre avis? Il va s'évader.
C'est un jour sans fin.
C'est la cinquième fois, et il s'évade encore. Bon, il va se faire recueillir par une sorte de famille qui va ensuite le poucave. Et auprès des flics qui vont le tabasser, donc re-violence policière, mais cette fois-ci du futur, du futur, du futur. Donc là, quand même, les mecs se disent merde, on l'a vraiment amoché, on l'emmène à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'il fait à l'hôpital, Roger Mason? Le roi de l'évasion? Eh ben, il va s'évader. Mais en fait, non. Parce que le hasard fait sacrément bien les choses. Il est dans le même hôpital que celui où est sa fille de 72 ans en fin de vie, en train de mourir, et il va rentrer par hasard dans la chambre, et il va la reconnaître. Et elle aussi, elle le reconnaît, et c'est beau, et elle meurt, mais elle meurt apaisée. Pendant que ses enfants et ses petits-enfants sont sur le côté en train de se demander « Mais c'est qui ce mec qui nous vole cet accompagnement de fin de vie de maman et de mamie, tu vois ?» Donc là, c'est beau quand même. Tu te dis « Ah, mais oui, enfin, je vois où est-ce que le film voulait nous amener. Mm. » Et donc, Gary Daniels, là, il s'évade, parce que c'est ce qu'il a dans le sang, dans le corps. Il s'évade et au rythme du métronome, dans les couloirs, pendant que les flics tournent en rond. En fait, il y a un seul couloir. Enfin, il y a un angle de couloir, et le but, c'est de filmer tout le monde qui va dans un sens, puis dans l'autre, dans le même couloir, en changeant un peu les pots de fleurs, pour te faire croire qu'ils sont dans un hôpital labyrinthique, alors que tu vois clairement oui. Qu'ils sont tous au même endroit tout le temps. Et là, c'est beau, parce que les flics disent « Non, arrête, arrête, Roger, arrête, on veut pas, on veut pas !» Et Roger, il est libre, il court, il a vu sa fille, il court, Jésus-Christ, métronome, coup de feu, freeze frame, sur la tronche essoufflée de Gary Daniels. Comptine enfantine.
43 minutes de film. Pardon.
Ouais, je spoil, hein, mais bon. C'était dans le titre. Hein.
Titre qui, d'ailleurs, excusez-moi, pourquoi ça s'appelle spoiler? Pas d'explication.
Alors, je ferai une deuxième chronique pour argumenter.
D'accord.
Non, j'ai pas encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
On en profitera pour s'évader.
Donc. C'est ça. C'est un fait. C'est ça. C'est ce film qui veut t'évader.
Moi, j'ai pas vu le film, mais tu disais qu'il y avait quand même des grosses ressemblances, effectivement, avec Demolition Man. Mais il y a des ressemblances aussi avec un autre film, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est Rock. C'est The Rock, le film. Parce que le personnage de Sean Connery qui est en prison s'appelle Mason. Et
oui,
il cherche à s'évader
avec sa fille. Ah, mais oui.
au début. Et le film est sorti, je regardais ça, le film est sorti 2 ans avant. Et je serais pas étonné que ça soit aussi une influence un peu indirecte ou un clin d'œil sur les noms ou simplement ils ont pas envie de
être non, c'est trop fatigués. Après, en fait, le film...
C'est
film
peut-être un clin d'œil aussi, faut pas...
C'est-à-dire que il y a une idée pas inintéressante d'une sorte de personnage qui est dans une sorte de résistance inébranlable à l'injustice, à l'oppression, dont le moteur est l'amour pour sa fille. Enfin, tu vois, ça le fait tenir. Il est dans la course et tout ça. Mais alors, le traitement, au final, c'est complètement de briquet de broc. T'as l'impression qu'il te manque des scènes. Le budget est largement inférieur à ce qu'il faudrait au vu des ambitions un peu dystopiques du truc. Ce qui fait que t'es en décalage un peu... constant entre t'es censé être dans du futur. En plus, toi, les mecs, ils t'emmènent loin et les intérieurs, tout ça ressemble à l'époque où le film a été tourné. Gary Daniels, tu sens qu'il fait des efforts, mais il est pas au niveau non plus, quoi. Le pauvre,
c'est son Tchao Pantin.
Ouais. Bah oui, bah, en vrai de vrai, il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a quelque chose de très dramatique dans le personnage. Et le réalisateur aussi a l'air d'avoir eu des galères avec la production parce qu'il a répudié le film pour ne pas avoir eu le final cut. Donc le réalisateur, c'est Jeff Burr, le mec connu pour avoir fait des séries B comme Massacre à la tronçonneuse 3, Pumpkinhead 2 ou Le Beau-père 2. Quelques Puppet Masters de fin de règne. Plus étonnamment, une sorte de film franco-mexicain Mille Mascaras versus The Aztec Mummy. J'ai cru que c'était un remontage d'un film mexicain préexistant, mais apparemment non. Et donc, en fait, il a pas mis son nom au film. Il a signé par un pseudonyme Cameron Van Dack. Une pensée d'ailleurs pour Jeff Burr, j'ai vu qu'il est décédé en octobre dernier. Comme quoi, Nanarland arrive un peu après la bataille. Et le budget que tu peux trouver, c'est $500,000, quoi. $500,000, 18 jours de tournage, c'est léger quand tu veux faire un film de SF, avec des temporalités aussi variées. Surtout quand tu vois que le film, de toute façon, a été tourné dans le même hangar que nombre d'autres films de la boîte de prod EGM Film International, dont un film qui s'appelle Convict 762, dans lequel il y a Frank Zagarino, pour faire du lien avec notre précédent chronique. Et donc, tout ça, ça crée le caractère vraiment brinque-ballant du film, qui n'est pas un nanar où tu te fends la gueule constamment, mais où tu es tout le temps un peu halluciné, un peu happé par ce décalage. On pourrait dire que c'est un peu une curiosité. Je crois qu'à un moment, Fabien, tu as eu ces termes de nanaroïde, ce qui est pas mal, je trouve, pour le désigner, parce que quand même, tu t'en amuses au bout d'un moment du truc, mais arrêtez de le faire s'évader, de le faire attraper et s'évader et machin. Et puis ça te donne quand même des films avec des jaquettes fantastiques, quoi. Qui te font rêver.
Ouais, c'est des jaquettes absurdes. Voilà. Des jaquettes, limite des jaquettes de projet, en fait. Des pré-jaquettes, parce qu'il n'y a pas d'infos dessus.
Ouais.
Donc c'est compliqué.
Je rejoins complètement, pour citer les grands auteurs, en l'occurrence François Coe, quel film étrange.
C'est un film étrange.
Et tu sais jamais sur quel pied danser, parce que à chaque fois que tu penses finalement avoir compris ce que t'allais voir, bah en fait c'est pas ça. Mais pas dans le sens où le film déjoue tes attentes, dans le sens que c'est encore plus cheap, répétitif et raté que ce que tu pensais. Et c'est vrai que c'est pas le genre de nanar où tu éclates de rire régulièrement. Il y a quelques scènes qui sont un peu drôles, notamment celle du champ magnétique cryogénique. Mais ouais. À chaque fois que tu te poses une seconde et que tu regardes en arrière sur qu'est-ce que tu viens de voir, tu dis, attendez, ça fait combien de fois qu'il s'évade, là, de chez les flics, c'est n'importe quoi.
C'est ça, oui.
C'est vrai, quand je dis à un moment donné, mais ça fait que 30 minutes de film, mais t'as l'impression, même quand tu l'as vu, qu'il s'est passé un milliard de trucs.
Oui, parce qu'il se passe plein de choses.
En disant, mais on va vers où ?
En fait, il se passe plein de choses, sauf qu'en fait, en même temps, c'est un rythme très lent, c'est hyper cheap. Et puis, ça devient très long, parce que en fait, c'est confus, c'est obscur. Et ça donne une sensation très 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 bizarre parce que du coup t'as envie d'aller jusqu'au bout pour savoir eux jusqu'où ils vont aller déjà, parce que tu dis en fait vous allez vous arrêter quand, enfin au bout de combien de
fois vous allez le congeler,
comprendre. Ouais, c'est ça, le mec à la fin c'est un Mr. Freeze, quoi. Tu dis mais vous arrêtez pas de le congeler, de décongeler, il doit être complètement dégueulasse à l'intérieur. Et puis bon, cette fin forcément, l'hôpital, tu fais waouh putain c'est chaud,
Ah non, c'est froid.
Ouais, c'est froid.
Avec quand même cette ultime tentative d'en faire un truc très symbolisé, enfin, tu vois, là, vraiment, on y croit, quoi, sur le dernier plan de Gary Daniels qui court, et non, arrête. Enfin, tu dis, waouh, ok, bah, quelque part, j'ai envie de vous dire bravo, les mecs, quoi. Enfin, vous n'avez pas lâché l'affaire.
Au milieu de tout...
Vous êtes croûté plein de fois, vous avez les genoux écorchés, mais vous êtes remis debout et vous avez continué. Quoi.
Vous avez été congelé 5 fois, mais vous vous êtes évadé 6 fois. Quoi.
Ouais.
Et puis au milieu du projet, effectivement, cet éléphant dans la pièce, cette espèce d'extraordinaire erreur de casting, qui est Gary Daniels. Ouais. Et en fait, comment... Faut être honnête, Gary Daniels, c'est pas un super acteur. Là, on a un film qui, en plus, qui est pas super bien écrit. Même, je pense, honnêtement, je pense que même un meilleur acteur aurait eu beaucoup de mal à le porter sur ses épaules et
ça aurait été compliqué.
Au-delà. Mais en plus, tu le vends pas aux fans de Gary Daniels. Enfin, je veux dire, à un moment, tu mets le nom de Gary Daniels sur la jaquette d'un film, les gens attendent un certain nombre de choses. Tu mets Steven Seagal, les gens attendent d'avoir des doublures qui fassent du vaguement de l'aïkido. Tu mets Gary Daniels, tu t'attends à voir des bagarres avec Gary Daniels. Le mec, il a fait toute sa carrière là-dessus. Et il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'action, il n'y a pas du tout ça. C'est un film assez intellectuel, en fait, finalement. Mais qui se rate en... Même cette espèce d'écriture où ils essaient de faire un truc, comme tu disais, très symbolique, très moral sur la liberté et tout. Et en fait, là, ça se croûte violemment. Enfin, c'est pas un truc où tu te dis il y a une bonne idée qui est mal exécutée. C'est une mauvaise idée mal exécutée.
Et puis je me rappelle, on a bloqué quand on a vu Jeffrey Combs à un moment dans le film. Toi,
oui, en plus, il est là aussi, lui. Bah, il fait Herbert West, hein, comme toute sa carrière. Il n'a jamais rien fait, il n'a pas fait tellement gros.
C'est lui qui joue le flic final.
Ouais, mais tu dis.
Il joue le flic du futur.
C'est vraiment un film, tu montres comment ça a été monté, enfin déjà le financé au départ, comment ça a été vendu. C'est très. C'est une vraie curiosité. Hein. C'est à la fois, je suis très content de l'avoir vu, en même temps, je suis très content de dire que je le reverrai jamais. Mais c'est quelque chose de autre un peu, tu vois. C'est, on est un peu dans les lames entre le nanar, le mauvais film, le film bizarre, expérimental. On a le cul un peu entre 3 ou 4 chaises, quoi. Donc on est très mal assis.
C'est ça. Mais quelle expérience.
Quelle sacrée expérience. Je te remercie, Pascalou. C'était donc Spoiler avec Gary Daniels. Mathilde, c'est à ton tour.
Oui.
Qu'est-ce que tu nous réserves ?
Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Mathilde règle ses comptes, vaguement sous le prétexte du podcast Nanarland. Comment ça ressemblait à ça ? Bon, aussi, c'est un peu pour la science et pour pas laisser ce film mourir seul comme un chien sous la neige. Le film dont on va parler, c'est au mieux un tout petit nanar. Certains autour de la table de ce podcast l'ont qualifié d'abominable purge.
Je me demande bien qui c'était.
Du genre qui mérite quand même la punchline admirable. On va reciter les grands auteurs. Je me demande si c'était François Coe ou John Nada. J'ai regardé ma montre au bout d'une heure, il s'était écoulé 20 minutes.
C'est Gérard Lefort dans Libération, parlant du film de BHL.
D'accord, merde, c'est pas un de nos grands auteurs.
Mais c'est comme si, on va dire que les deux
c'est comme si, on va dire c'est ça. Lui,
hein. Dans la critique, c'est un grand auteur.
Exactement.
C'est du François Coe, on va dire, je l'attribue à François Coe, Apocryphe. Donc, il y a des films qui explosent un peu à leur sortie, c'est une sortie Netflix. Hein. Lui, il n'aime pas fait shit. Il a fait un petit prout un peu liquide et quand il a suanté sur Netflix en sortie directe. Et pourtant, il nous est posé par un réalisateur que j'adorais franchement, qui était mon petit péché mignon.
Oh, je crois savoir.
Non, c'est pas Olivier Marshall. C'est dur à dire, mais on va parler de Big Bug de Jean-Pierre Jeunet.
toi aussi, tu l'as vu. On va faire une petite thérapie tous les deux.
Ah non, c'est...
Voilà.
C'est hystérique,
si
non,
comme
pitié.
Moi,
je suis pur, innocent et naïf. Vas-y, Mathilde.
Fuis, Pascalou.
Arrose-moi.
Sauve ton âme.
Cours.
Comme Gary.
Non, mais si comme moi, vous aviez aimé La Cité des Enfants Perdus, séchez vos larmes et venez tirer sur la corde, on est 40 et on essaie de déboulonner sa statue, là. Non, Genet, en fait, il sortait à l'époque, au ciné en tout cas, d'un très moyen, je ne sais pas si vous vous souvenez, Micmac à la tire larigot.
Bien sûr.
Qui tenait par son casting, hein, bon, Dussolier, c'est un peu ma bouée de sauvetage dans les films, par son intrigue un petit peu, mais il y avait des panards de 46 fillettes, question subtilité. Ça tenait, on va dire, ça tenait son rang dans les films de Danny Boone, quoi. Voilà, à côté d'un hyperchondriaque, voilà. Et puis, suivi ensuite par un extravagant voyage de T.S. Pivette, où, perso, moi, j'ai rompiché de tout mon cœur. Je ne suis pas très road movie, donc voilà, je me suis dit, allez, Micmac attire l'arigot, je l'ai vu deux fois. La première fois, j'avais, ok, c'est frais, c'est joli, c'est Amélie. La deuxième, j'ai fait, qu'est-ce que j'avais bu la première fois que je l'ai vu. Et voilà, extravagant voyage de machin, je me suis dit, allez, c'est un road movie. Et 7 ans après l'annulation de la série Casanova, débarque Big Bug. Et ben le bilan, il est plus vite fait que celui de la Comtesse de Valois, hein. On va pas se mentir. C'est pas excessivement moche, mais ça n'invente rien qui soit un bon gros cliché, esthétiquement parlant. Sauf étrangement pour les costumes. Je pense que les costumiers, ils ont manqué un mémo, ils ont pris un RTT, mais il y a un trou en forme de jeans Marcel là, dans l'univers plus futuriste. Il n'y a aucun costume. Bon, ça, ok, pourquoi pas, hein. Ça coûte pas cher des costumes futuristes civils, mais bon. Sinon, oui, bah, c'est la banlieue pavillonnaire du Turfu, c'est les meubles en formica néon du Turfu, c'est les lumières agressives du Turfu, c'est la colorimétrie des années 2000, ça par contre, et c'est le robot de Robocop. Voilà. Ah ouais. Esthétiquement, ça n'invente rien. Surtout bon, depuis qu'on a joué à Cyberpunk. Voilà. Et ça raconte absolument rien de valable non plus pour la science-fiction. Hein. C'est ça qui est d'ailleurs génial. Ça réussit à créer, gérer entièrement hors champ et résoudre en 40 secondes à la fin sur une pirouette une révolte de robots avec un coup d'État. Ça met tout ça en place, mais en fait, c'est un vaudeville du théâtre des deux ânes en huis clos. Voilà. Genre, vous me dites, ok, on a créé un univers, il y a des enjeux sociétaux, il y a le changement climatique, il y a la mutation du travail, il y a l'intelligence artificielle, il y a le consumérisme, il y a des pubs à la Blade Runner. Ok, on fait quoi? Rien.
Mais est-ce okay. que, quand tu parles de tout ça, est-ce que ce qui ne serait pas vraiment intéressant, c'est la vie amoureuse et les tourments de quadragénaires divorcés parisiens?
Voilà, c'est un peu ça, en fait. C'est, les gars, ils ont forcé la porte. Ils ont fait non, mais ce film, en fait, c'est une comédie sur la vie amoureuse et le marivaudage. Je vois que ça parce que vraiment, les gars,
dans le futur,
vous aviez oublié la SF dans votre film de SF, quoi. Non, bon, du coup, vous me direz, voilà, si c'est pas abordé, banane, comment tu sais, tu nous dis, ouais, il y a un univers avec des enjeux sociétaux, le changement climatique, etc. C'est bien suggéré quelque part.
Suggéré.
C'est pas suggéré. C'est pas... Plutôt, je vais faire un gros appel du pied à 2 heures du perdu, on vous aime, les gars. Eh ben, pour bien montrer les enjeux, on va les expliquer dans des dialogues par les personnages 3 fois. On va faire des gros Baz Luhrmann. On va tout coudre en câble. On va coudre en câble blanc de marine. Ah non, ça donne... Vraiment, je vous en fais un. Hein. Eh ben, Marcel, nous allons être en retard pour notre voyage vers l'île du plaisir. Mais oui, nous avons réservé, ils ont beaucoup de belles choses sur cette île. Un robot descend du plafond. Et connaissez-vous l'île du plaisir? C'est une île et il y a plein de plaisir et on peut voyager là-bas. Et là, il y a un écran de 15 mètres qui s'allume sur le mur derrière. Et d'ailleurs, vous êtes en retard pour votre voyage vers l'île du plaisir. Vous avez un billet. Et là, il y a Jean-Pierre Jeunet qui surgit derrière ton canapé. Et ceci est un commentaire pour dire que le consumérisme, c'est mal.
J'ose à peine imaginer le commentaire du réalisateur sur ce film, sur un film comme ça. C'est-à-dire que si en plus, il te réexplique ce genre de scène, mais à un moment, quelqu'un va prendre une baffe. Hein.
C'est les poupées russes. Et vraiment, il y a des doubles, des triples explications, il y a des dialogues complètement pataux. Et soyez heureux, c'est la même chose avec les personnages. Qui ont en tout et pour tout, en fait, une ligne de caractérisation. Et je dis une ligne, mais en fait, c'est un mot. Il y a une cruche, il y a un gamin, il y a un ado, enfin, une ado, il y a un plouc, il y a un dragueur, il y a Isabelle Nanty, et il y a un robot relou, un robot qui rime à rien, un robot qui sert à rien. Voilà.
Enfin, et les personnages sont caractérisés surtout par un truc, c'est tous des obsédés. Ils ne pensent qu'au cul.
Tout le monde baise. Ça, oui. En fait, les robots veulent devenir humains, comme c'est poésie. Et les humains veulent baiser.
Et les robots, pour devenir humains, proposent de baiser.
Oui, voilà. Sauf, je crois, il y en a un qui, authentiquement, n'a pas d'appareil génital, mais sinon, tous les robots... Ils ont ressorti une version française Netflix de Jude Law dans Artificial Intelligence. Je vous jure.
C'est le bord de noir.
Il y a un androïde avec la même coiffure, le même maquillage, la même tronche, qui fait « Non, là, vous abusez, les mecs ». Franchement...
Oui, qui est joué par Alban Lenoir, ouais, là, l'espèce Noir, ouais. de boy toy.
Le boy toy, ouais. Bref, et tout ce petit monde-là caracole dans 15 mètres carrés sans que rien n'avance jamais. Personne ne réfléchit, personne n'évolue, personne n'a d'épiphanie, de récit. En fait, après le film, ils n'ont rien appris, vous non plus. Voilà, enfin, grosso modo, les humains n'ont même pas réussi à baiser et les robots n'ont même pas tenté de devenir humains, ni appris qu'ils ne pouvaient pas devenir humains. Voilà. Et dans les deux cas, savoir exactement pourquoi, c'est secondaire. Tout comme est secondaire, le fait que pendant que Elsa Silberstein se déguise en Marilyn Monroe pour jouer à Touche Pipi, il y a, je vous le rappelle, littéralement, un coup d'État avec des robots dont tout le monde se fout.
Mais moi aussi, je m'en foutais. Enfin, je regardais le film, je n'avais rien à foutre non plus. Hein.
C'est la dépolitisation des classes bourgeoises qui sont uniquement intéressées, effectivement, par leur frifri, leur foufou.
Mais en fait, le truc, c'est qu'en même temps, les classes bourgeoises n'aiment plus baiser et ne prennent plus plaisir à la galipette, donc tu sais plus. Mais en fait, je sais même pas pourquoi j'en parle.
Je pense que c'est une dénonciation. Je vois pas d'autre explication.
Tu sais pas ce que ça veut dénoncer, en fait, ça dénonce un peu tout, un peu rien.
J'ai pas dit quoi, j'ai dit une dénonciation. Après, et en fait, compléter comme vous le voulez.
Une fois passé l'absence de fond et le fait que du coup, bah, sans fond, on s'emmerde à 100 brousseurs, il va bien falloir parler de la forme. Et c'est là qu'on a le plus envie de prendre un petit créneau Doctolib, là, papy Jean-Pierre Jeunet, avec un neurologue, d'urgence. Franchement, le ciné de Jeunet-Caro, grande époque, je suis très cliente, c'est top. C'est bien plus que le cliché du « ouais, tout est jaune » qu'on a parfois. Enfin, c'est bruyant, mais c'est inattendu, c'est un côté... Je sais pas, en fait, si c'est la Cité des Enfants Perdus qui me fait dire ça, parce que c'est un peu mon étalon, mais c'est un côté forain, en fait. C'est tapageur, c'est les montagnes russes, t'es plongé dans le bain, il y a des fichailles, il y a Daniel Emilfort, il y a Dominique Pinon, il y a le son qui a une très grande personnalité, t'as la caméra qui vole, enfin c'est singulier, c'est baroque, ça claque quoi. Et là en fait c'est juste agressif.
T'as envie que ça s'arrête.
Mais c'est pas agressif parce que ça recherche en fait. C'est pas agressif maîtrisé. C'est agressif comme un vieux boomer en chaussettes Birkenstock qui vient hurler et mettre son doigt à 2 cm du nez de la serveuse parce qu'il peut pas supporter de plus comprendre le menu de Starbucks, en fait. Vraiment. Et le temps de métrage en particulier qui est passé en fisheye, je crois que ça doit facilement être du 50%. 60, peut-être, 60. Il y a tellement de plus en large en plus et tellement de raccords qu'on se paume dans les 4 mètres de leur maison.
Non, mais
qu'on ne quitte pas.
T'as envie de dire à Jean-Pierre Jeunet qu'il faut prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Je sais qu'il y a 6 mois d'attente, mais là, il y a un problème.
Et évidemment, on vous l'a déjà dit aussi un petit peu, tout le monde gueule en même temps, se crie dessus. Elsa Silberstein, Isabelle Nanty, elles sont à permanence, à donf en grande scène du 4, ça fait mal au crâne.
Tout le monde crie tout le temps.
Ça jette des vases, ça se parle les uns sur les autres. Des dialogues en plus écrits à la truelle, où ça saute d'un truc à un autre. En fait, tu t'aperçois que une moitié du film, ils doivent sortir de la baraque, et en fait, ils abandonnent. On passe à autre chose. Tous les plot points, c'est comme ça, en fait. On en parle, ah bah c'est pas possible, bah on passe à autre chose, et on n'en reparle plus. Enfin, c'est vraiment tout ça, en fait, c'est un pur carrousel. C'est-à-dire, ça clignote, ça fait de la musique, ça bouge, et au final, tu descends, t'as pas fait un mètre, quoi. Enfin, c'est totalement inutile. Et des résultats, entre le propos qu'on nous rabâche, qu'on vit dans une saucisse et que, franchement, il y a des enjeux qui sont graves, les personnages qui piétinent et qui bloquent sur les écrans parce qu'ils ont perdu le mot de passe, eh bien, c'est boomer, le film.
Non, mais dans sa dénonciation de la société, ce film, c'est un peu Joker, sauf qu'à la fin, c'est toi, le spectateur, qui devient le Joker.
Je l'ai jamais vu.
Ouais, bah, écoute,
quoi, Joker ou Big Bug?
Big Bug, Joker, je l'ai vu. J'ai aucun doute sur le fait que c'est sûrement mieux que...
Ouais, pour l'instant, t'as vu le meilleur des deux, hein, je te le cache pas.
Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais je l'ai jamais vu, effectivement, Big Bug, parce que j'en avais entendu parler jusque-là avec, avec la réputation qu'il avait, parce qu'effectivement, Mathilde, tu l'avais vu. Moi, j'étais passé dessus, entre guillemets, j'étais passé sous les radars. Je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'à un moment, je m'étais dit qu'en fait... j'avais oublié que c'était un peu nanar, mais je pensais que c'était un peu le film raté, tu vois, mais genre raté chiant. Tu vois, genre un peu ennuyeux.
Bah, je crois que c'est l'avis de deux personnes qui l'ont vu ici.
Trois, hein, Rico est avec nous.
Rico, tu dis quoi? Rico, oui. Raté pénible.
C'est raté, d'accord. Pénible, parce qu'en fait, c'est raté sur le fond, sur la forme, mais c'est surtout, comme l'a dit Mathilde, excessivement agressif. Et agressif dans le sens, c'est même pas que ça va te challenger, que ça va t'obliger à considérer des persos que t'aimes pas forcément. Je veux dire, comme un Uncut Gems, par exemple. Je suis pas un fan d'Uncut Gems. Je trouve le personnage insupportable, mais je reconnais toutes les qualités du film. Parce que c'est bien filmé.
C'est agressif, genre... Et...
Mais là,
genre
c'est...
Quoi, genre Philippe Clair.
Ouais. okay, agressif.
Genre, mais fermez vos gueules.
Ouais, oui, c'est ça. Non, mais j'ai compris.
Et ça fait beaucoup, en fait, ce côté, en plus, très peu progressiste, vous les jeunes avec vos écrans, ça fait beaucoup dans cette impression que, bah, ça y est, jeunet est liquide. Hein. Et que, bah, de Big Bug en l'Empire,
comme
finalement...
Comme le pro du début, non?
De Big Bug en l'Empire, bah, les grands auteurs de ciné en 2024, ils en finissent pelus de plus comprendre la science-fiction, de plus savoir, en fait, que la parodier, et bah, surtout de plus vraiment l'aimer. Ça... C'est le gros souci. Je pense qu'il y a une méconnaissance et un désamour de la science-fiction par un mec qui a un peu lancé le steampunk au ciné. Donc ça fait chier, quoi.
Parce que moi, Alien 4, je trouve ça cool. Hein.
Je peux te faire...
Ah, mais c'était il y a 20 ans, Alien 4. Enfin, c'est même il y a 25 ans.
Oui, non, mais c'est
ans,
pour mais dire oui. Qu'effectivement, il a fait des trucs en matière de science-fiction qui étaient vachement bien.
Ouais. Et là, il est dépassé, Mathilde. Clairement.
Si tu veux, Mathilde... si tu veux, Mathilde... Jean-Pierre Jeunet, il vient au cinéma de Saint-Lô, là, samedi prochain, pour une masterclass.
Est-ce que tu veux que je casse la gueule?
Est-ce que tu veux que je porte, que j'y aille pour porter ta voix sur... J'ai une amie qui m'a parlé de Big Bug et qui a des choses à
on
dire.
On ne veut pas que tu portes la voix, on veut que tu portes un diagnostic. Franchement.
Ou une beigne, hein.
Fais ton métier, merde, Pascal.
Une seringue pour le piquer, enfin un truc, voilà, il y a un moment, faut arrêter qu'il souffre.
Mathilde l'a déjà dit, mais à l'image du film, je vais me permettre d'en rajouter une couche, parce que, en fait, un des trucs qui moi, m'a très beaucoup frustré dans ce film, c'est que, c'est vrai que sur les costumes, c'est nul, mais que t'as quand même une vraie direction artistique, t'as des décors qui, je trouve, sont assez inventifs, il y a un peu de boulot qui a été fait pour créer un monde futuriste à qui on peut reprocher surtout d'être très semblable à d'autres mondes futuristes qui ont déjà été faits mieux avant. Et en fait, alors que tout est en place pour avoir une vraie narration environnementale, le film ne le fait jamais, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le film nous montre un truc, il le souligne au marqueur rouge, au stabilo, tac, 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 vas-y, t'as vu mon truc. Et c'est insupportable parce que au bout d'un moment, c'est pas juste que c'est maladroit, c'est que t'as l'impression d'être pris pour un con. T'en veux dire, Jean-Pierre Jeunet, c'est bon, on a compris, abrège, frère.
Oula.
Putain, la référence.
Et en parlant de maladresse, il y a aussi des maladresses formelles. Je vous dis, dans l'espace, il y a des faux raccords, ou en tout cas des choses qui sont filmées avec le cul, qui font qu'une personne tombe à gauche, elle atterrit à droite, et ça, franchement, c'est pas à la hauteur, quoi. C'est pas au niveau.
Alors, il y avait il y a un autre film au passage qui est sorti quasiment, ça doit être la même année ou l'année d'après, avec encore un androïde français. C'est L'Homme Parfait. Je sais pas si vous avez vu cette de Xavier Duringer.
Oh.
Je sais pas si vous avez vu cette abomination avec Pierre-François Martin Laval en androïde. Et ouais, c'est Didier Bourdon, je crois, et
oui,
Valérie Kersanti.
Didier Bourdon, toujours là. Ouais.
Et j'ai jamais vu un film à ce point où personne, mais alors absolument personne, n'a envie d'être là. Et ça se sent, mais il se passe rien. Xavier Duringer, qui est quand même un bon réalisateur, il en a rien à foutre. Il pose sa caméra, il se barre. Et il n'y a aucun gag. Il n'y a rigoureusement aucun gag. Le seul gag, c'est que Pierre-François Martin Laval est un robot. Et que et il sous-joue en plus. C'est-à-dire qu'il sous-joue le robot. Donc,
il fait le minimum.
Ouais, mais il y a, je sais pas, il y a eu une vague de films de boomers avec des robots. Il doit peut-être y en avoir d'autres, là, de films français avec des robots. C'est absolument atroce, quoi.
Eh ben oui, effectivement, c'est une mode, heureusement, qui est terminée. On en reverra.
Souvent, le SF, hein, ça arrive, ça explose, c'est sympa.
C'est exactement, ça fait
son petit... Sachant que là, tu dis que dans Big Bug, il y a beaucoup de marivaudage, mais de mémoire, dans L'Homme Parfait, il y a tout un délire aussi sur le fait que, en tant que robot, il peut être homosexuel pour...
Mais
exactement.
Je pense que le souci, en fait, c'est que les mecs, ils prennent le script
habituel.
Ils prennent le script habituel et ils mettent un robot quelque part. C'est ils sont pas là pour faire de l'ASF, ils sont là pour faire le film habituel et rajouter un robot.
C'est totalement ça.
Au pire, c'est un chien.
Mais en fait, c'est des films pour personnes âgées. En fait, c'est des films qui sont faits en fait pour un public âgé auquel on va rajouter une touche de modernité avec un robot. Il faut surtout pas les brusquer. Donc ça va être juste que à la place d'avoir le maître nageur ou le professeur de yoga, ben ça sera un robot à la place. Mais fondamentalement, voilà, c'est le même ressort usé de Comédie de Boulevard. Ce qui est Big Bug, hein. Big Bug, ça pourrait être une pièce de théâtre, hein. C'est en lieu clos.
Ah, c'est les deux ânes, hein. C'est les deux ânes. Ouais.
Le théâtre des deux ânes.
Il y a, littéralement, je vous ai pas parlé du plot, mais c'est Elsa Silberstein qui vit toute seule avec sa fille, et elle accueille en même temps et ne peut plus sortir son ex-mari et sa nouvelle bitch, qui est jouée par une actrice qui est très jolie mais qui est cantonnée dans un rôle de cruche qui malheureusement voilà la compresse quoi, et son amant un peu loser et son fils. Voilà, vous ajoutez trois robots, vous avez fait.
Là, la vraie question, Mathilde, c'est est-ce que tu recommandes le visionnage de ce film ?
Oui, par exemple, moi, est-ce que je dois le voir ou est-ce que je dois plutôt aller laver les joies du carrelage de ma salle de bain ?
Ranger mes chaussettes.
Alors, je vous dirais 10 minutes.
Ils sont
accordez-vous 10 minutes.
Ils sont dans quel état, les joints de ta salle de bain ?
sans rien vous dire comme ça, juste dire tiens, pourquoi pas les nettoyer ? Parce que tu me dis 10 minutes, c'est les 10 premières minutes ou c'est 10 minutes au hasard du film ?
10 minutes au hasard. 10 minutes peut-être vers la fin quand l'androïde est là. Effectivement, je parlais de Daniel Emile Fort, il a retrouvé un acteur qui a aussi une tronche assez anthologique. Et dans l'absolu, ça ferait un robot. Enfin, le mec, il peut être affilé de supplant et puis il maîtrise bien le truc. Et il apporte une copie de Daniel Emile Fort quand même. Je suis désolée. Allez, pourquoi pas. Donc, allez, pourquoi pas aller plutôt vers la fin, quand ça tourne un peu au siège avec le robot. Comme ça, en plus, vous pouvez voir comment il gère pas les scènes d'action.
Attends, mais je viens de voir, là, sur Wikipédia, il fait 2 heures, ton film.
Oui.
Il fait 111 minutes. Je pensais que ça durait 1h20, moi.
Vous vous laissez la possibilité de zapper. Et c'est pas grave de ne pas avoir... vous comprendrez pas l'intrigue, et tout le monde s'en fout de l'intrigue. Donc voilà, regardez, observez le désastre, et quand vous en avez assez, vous avez pigé, vous avez.
Mais Fabien.
Oui.
1h20 ne suffirait jamais à explorer toutes les permutations de l'amour et du hasard qui est possible dans cette maison avec 6 ou 8 individus qui sont bloqués par des robots qui essaient de les protéger du coup d'état des vilains Terminator.
Alors pour savoir s'il faut
les
que tu
robots
le vois,
Ionix, ça s'appelle.
Oui, pour savoir s'il faut que tu le vois, Fabien, dis-toi que il est sur la playlist de Guantanamo, en fait. Donc, voilà, c'est ce qui passe aux pensionnaires de Guantanamo. Voilà.
Putain, mais je crois que c'est le genre de film où, effectivement, la fonction vitesse x2 sur Netflix a été créée. C'est pour
alors,
éviter
non, parce que du coup, Isabelle Nanty, si tu la mets en x2, elle passe en ultrason.
Oui, c'est vrai. Et là, c'est ton chien qui pète un câble.
C'est vrai.
C'est ton chien qui pète un câble et c'est ton cristal et ta vitre de chez toi qui commence à se fissurer. Bon, en tout cas, Mathilde, merci. Donc, c'était Big Bug de Jean-Pierre Jeunet, film de 2022. Donc, on a eu un sacré panaché hein, de films, un petit patchwork. Du coup, je vous félicite Je vous félicite et du coup j'essaierai de voir Big Bug et du coup Rico essaiera de voir Spoiler.
Oui, je vais essayer de voir Spoiler parce que ça m'intrigue.
Va nettoyer tes joints de salle de bain.
Bon, alors, peut-être que je ferai les deux en même temps.
Mais
je sais pas.
Pourquoi ?
Peut-être que. Mais toi, Julien, t'as aimé ou pas ?
Non, j'ai tout vu aussi, monsieur. Là.
Non, mais Julien, t'as aimé Big Bug ou pas, toi ?
Non.
Ah, d'accord.
Non, laissez-moi. Laissez-moi.
Mais arrêtez de parler de ce film, c'est suffit.
Si tu veux, c'était une épreuve d'endurance. À un moment, Mathilde me demande, mais si tu veux, on arrête. Je dis non, j'irai au bout parce que si on arrête maintenant, on verra jamais. Je le verrai jamais jusqu'au bout, quoi, parce que jamais je relance ce truc volontairement. Non.
Ouais, mais en plus, tu vois, c'est un truc, c'est chiant parce que tout le monde te dit que c'est nul, tout le monde dit que c'est une épreuve, et du coup, t'es encore plus curieux d'essayer. Tu vois, c'est horrible. C'est comme la clope.
Je pense qu'il faut le voir dans 10 ans.
Tu peux pas l'inventer. Tu peux pas t'imaginer le film. Tu peux t'imaginer éventuellement, après le résumé exhaustif de Pascalou, tu peux t'imaginer Spoiler, tu peux pas t'imaginer Big Bug. Voilà.
J'ai du mal à croire qu'il passera Nanar quand même, parce qu'il est trop pénible pour être Nanar. Même dans 20 ans, à moins que les effets spéciaux soient redevenus vraiment ridicules. Et même pas.
Je pense qu'on sera sur le même rendement qu'un film des Charlots moyens.
Ouais.
Ou qu'un Philippe Clair, comme je disais. Je pense. Mais encore, voilà. Philippe Clair, t'as de l'humour qui tape à côté, qui peut te faire rire. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit spécialement une comédie en plus.
Il y a des gags.
C'est une espèce de satire. C'est ce genre très français de la comédie pas drôle qu'on qualifie parfois de satire ou de pastiche.
Ah putain.
C'est-à-dire que c'est à la fois un truc, tu vois, qui va être super. Drôle mais sans être drôle, c'est-à-dire que c'est drôle mais tu ris pas, mais quand même c'est drôle parce que c'est comme être un sapure sexuel mais de l'humour.
Ah oui, je vois très bien ce que tu veux dire.
Vous voyez, c'est ça un peu.
Ah ouais.
C'est que ce qui va vous faire rire, c'est les trucs qui sont tellement high level que c'est pas drôle, parce que ce serait vulgaire.
Excusez-moi, ça s'appelle le nanar. Hein.
Ouais, j'ai tellement pas aimé ce film, mais vraiment c'est waouh.
La SF française qu'elle ride quand même. Hein. C'est impressionnant. Heureusement qu'il y a Mars Express. Parce que sinon, tu me dis film français, fantastique français. Moi, déjà, là, parce que je l'ai vu récemment, là, je repense à Terminus, par exemple, tu vois, qui est quand même un des pires trucs de science-fiction qu'on ait fait en France. Mais oui, effectivement, Big Bug, donc, qui est quasiment 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, on a fait Bug.
Je dis quand même qu'il était conscient des risques liés à son film, parce que. Il sait, comme il dit, qu'il y avait un demi-milliard de spectateurs potentiels pour son film.
Oui.
T'imagines, le mec, quoi, il a lancé Big Bug sur un demi-milliard
de personnes. Mais techniquement, il y a 60 millions de personnes qui peuvent voir un film au cinéma aussi en France, tu vois. Julien, Rico voulait dire quelque chose, je crois.
Non, c'était juste un truc. Je tiens une liste des films que je vois par année sur Science Critique. Et donc, pour l'année 2022, j'ai vu 182 films. Enfin, pas que en 2022, mais depuis 2022. Et donc, sur les 182 films, Big Bug est 176e sur 182. Et Apex, avec Bruce Willis, est au-dessus.
Non, mais écoute, je pense
il y a
1
sur 10. Oui, moi, et Apex est 175e.
Mais je le mets au-dessus aussi, hein. Pas de problème.
Ouais.
Apex, au moins, tu rigoles.
Mais oui. C'est là que je m'aperçois, ouais, que...
Ah, mais c'est bon, j'ai compris, je vais le voir, merci, c'est bon, pas la peine d'assister.
Ça y est.
Et l'homme parfait, tu l'avais mis.
Alors, l'homme parfait, il est encore au-dessus, il est 174e.
Ah, oh, mais c'est bien, Rico, il est constant.
Mais je sais pas pourquoi j'ai préféré l'homme parfait à Big Bug. Peut-être parce que Big Bug était vraiment plus hystérique. Mais, je veux dire, entre les deux, j'ai deux films de requins.
Donc, peut-être qu'il dure moins longtemps, l'homme parfait. C'est pour ça que tu t'es dit, tiens, c'est plus facilement digérable que Big Bug.
Et un film de Dracula de Zia Zaylom.
C'est agressif, mais c'est nul.
Un film érotique Dracula, The Original Living Vampire, qui est un film érotique Zia Zaylom avec Dracula.
Tu disais
179e.
On parlait.
Putain, Jean-Pierre Jeunet quand même là.
On parlait audience Big Bug dans les trois premiers jours de. Ça avait donné 2,4 millions de visionnages complets, sachant que sans aucune promo, Loin du périph avait fait 13,4. Il s'est fait niquer par Bac Nord deux fois plus, par enfin, voilà, par tout le monde, arrivé dernier en fait sur la semaine, avec une promo tapageuse. Et franchement, tout le Télérama était sorti, voilà, enfin tout. En fait, la presse était partagée entre le une étoile plus jamais ça. Et le 5 étoiles, et si j'ai le temps, je le regarde.
Ah oui, comme Bruno Dumont, bien sûr, je connais.
Ouais. Bon, allez, on va arrêter là, du coup. Je pense qu'on a tout dit sur Big Bug, sur Spoiler, et sur Highlander, la source. Trois films qui méritent le détour, ou pas. Je sais pas, c'est à vous de voir. Hein. Vous les verrez ou non, et vous nous insulterez ou non après.
Alors, je dirais Highlander, la source, oui.
Non, mais certains
les trois ou rien. Certains films méritent le détour dans le sens qu'il faut passer à côté et les éviter.
Certains méritent un détour et pas le détour. Ils méritent. Bah écoutez, on vous fait des bisous à tous, à toutes, à tous ceux qui nous écoutent. Et puis on se dit à bientôt pour un nouveau thème. Alors on ne sait pas encore lequel, on ne sait même pas quand on va enregistrer. On ne sait même pas si on sera tous là. Ça se trouve, Jean-Pierre Jeunet et son armée d'avocats vont nous mettre en prison.
Non, c'est les fans d'Highlander. C'est les fans d'Highlander qui vont nous traquer.
Et les fans de Marvel. Et les Anglais et les fans de Gary Daniels, bref tout le monde. À très bientôt. Et puis bah, écoutez, j'ai envie de dire bonne journée ou bonne soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast.
Salut, salut les Nerdeurs.
Allez, ciao et bon futur à tout le monde.
What are you?
I'm the Guardian. Question is, who are you?
I'm Duncan MacLeod.
I'm Duncan MacLeod. I'm Duncan MacLeod.
I'm Duncan MacLeod.
Well, Duncan MacLeod.